Merci et bonjour, j'allais dire bonsoir, mais bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Mon exposé de ma conférence d'aujourd'hui est Interaction et coévolution plantes-animaux. Je vais donc parler de plantes et d'animaux. Je vais parler d'êtres vivants qui appartiennent à la diversité des êtres vivants. On va parler un petit peu de biodiversité pour commencer. Et j'ai appris juste en arrivant ici qu'il y avait une animation sur les champignons, peut-être pas à Tence, mais en tous les cas pas très loin d'ici. Et le risque, c'est qu'il n'y ait personne ici parce que tout le monde est intéressé par les champignons. Alors voilà, on va faire compétition aux champignons. Vous savez, c'est plus tellement les termes utilisés à l'heure actuelle, mais dans le grand public, on utilise toujours ces termes de règne animal, règne végétal, et aussi les champignons seraient le troisième autre règne. Donc un petit peu en dehors, attends, il se passe quelque chose autour du règne des champignons. Nous, on va se focaliser autour du règne des plantes et règne des animaux, et on parlera quand même un tout petit peu, vous verrez, à la fin de champignons. Et surtout, ce dont je vais vous parler, c'est des interactions qu'il y a entre les plantes et les animaux. Et on va voir ces interactions dans un contexte qui est un contexte. Alors, je ne vais pas faire de théorie, mais je suis obligé d'en parler un petit peu, hein, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on a pu en arriver là. C'est-à-dire que tous ces êtres vivants, tout ce foisonnement de vie, toute cette biodiversité, intègre aussi des interactions entre ces êtres vivants, et c'est un des aspects qui est très 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 étudié à l'heure actuelle, et c'est un des aspects sur lequel donc je voudrais insister beaucoup. Donc je vais vous parler d'interaction entre les animaux et les plantes, avec un exposé en deux parties. Une première partie où je vais donner un certain nombre de généralités sur ces relations qu'il peut y avoir entre plantes et animaux, et dans une deuxième partie, je développerai, elle sera un peu plus courte, quoique je peux parler très longuement là-dessus, puisque c'est là-dessus que je travaille spécifiquement. Je vous parlerai de quelques exemples d'interactions entre des plantes et des insectes, en l'occurrence des insectes très particuliers, des insectes sociaux. Je suis un spécialiste des insectes sociaux, hein, c'est essentiellement là-dessus que je travaille depuis une trentaine d'années sur les fourmis, et sur différents aspects en éthologie, c'est-à-dire en comportement, en écologie, et à l'heure actuelle, et depuis 20 d'années, un peu plus, je travaille en Guyane française sur les interactions de ces insectes sociaux, de ces fourmis, avec d'autres êtres vivants, et tout particulièrement avec des plantes, avec des végétaux, avec des arbres. Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai annoncé, un certain nombre de généralités sur les interactions qu'il peut y avoir entre plantes et animaux. Et tout au début, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de règnes dans le monde du vivant, hein. Le monde du vivant est très très diversifié. Cette diversité de la vie, le terme biodiversité est très à la mode maintenant, mais il est assez récent, hein. Il date précisément des années 80. Il a été vraiment mis en avant au moment de la convention de Rio en 1992, la convention sur la diversité biologique. Et cette diversité biologique, donc, on ne la trouve pas avec le même foisonnement partout sur la planète. Et par ailleurs, elle est composée de tout un tas d'êtres vivants très différents, hein. Et cette biodiversité, comment est-ce qu'on la définit? Alors classiquement, on a tendance, hein, si vous allez dans un dictionnaire ou si vous regardez sur Internet, vous cherchez la définition de biodiversité. En général, on vous dira que la biodiversité, c'est l'ensemble des variations du monde vivant. Trois niveaux sont retenus. Le premier niveau, c'est celui des espèces, hein, c'est celui qui vient tout de suite à l'esprit, le nombre d'espèces, hein, la diversité des espèces qu'il y a sur notre planète. En dessous de ce niveau, il y a ce qu'on appelle la diversité génétique que j'ai illustré ici. Et bien voilà, autour de l'espèce des vaches, et bien il y a un certain nombre de races, hein, qui ont été créées sous l'action de la domestication humaine. Donc ça, c'est un exemple de diversité génétique. Mais au-dessus du palier de l'espèce, il y a un autre type de diversité qui est la diversité des écosystèmes. Et en fait, ce qui fait aussi la grande richesse de cette diversité écologique, de la diversité des écosystèmes, c'est la diversité des interactions qu'il y a entre les êtres vivants. Cette diversité des interactions entre les êtres vivants et cette diversité d'interactions et cette richesse de diversité biologique, je vous l'ai dit, elle est plus ou moins importante selon les parties du monde, et il est clair que c'est sous les tropiques qu'elle s'exprime avec le plus de scénarios extraordinaires, et c'est là où elle est la plus grande. Sous les tropiques, à savoir, pour coursiers des milieux terrestres sous les forêts tropicales, et c'est essentiellement de milieux, de ces milieux-là dont je vous parlerai, hein, d'exemples de forêts tropicales, même si dans l'introduction je serai plus général. Mais moi, c'est mon endroit d'étude, hein, spécifique, les tropiques, essentiellement la Guyane et l'Amérique du Sud, mais un peu partout sur la planète. Et également, donc, la diversité est la plus grande, et la diversité des interactions est la plus grande. On va la trouver dans le milieu marin, dans des milieux comme, par exemple, les récifs tropicaux. Alors, cette diversité d'espèces, hein, combien est-ce qu'il y a d'espèces sur Terre ? Personne ne le sait. On a un certain nombre d'estimations. Le nombre d'espèces décrites, même celui-là, on ne le connaît pas. Il n'y a pas un grand catalogue précis de toutes les espèces. On va dire il y a 1,4, 1,5 millions d'espèces décrites, ça va varier. Si je prends à peu près les espèces qui sont décrites à l'heure actuelle, si on part sur une base d'un million deux, un million trois, un million quatre, voilà à peu près comment elles se répartissent, ces espèces. Vous voyez en vert le numéro 12, là, ce sont les végétaux au sens, les végétaux supérieurs, on va dire, pour être simple, qui représentent quelques centaines de milliers d'espèces. Les champignons, hein, quand même, sont assez bien représentés, mais sans doute sous-estimés. Il y a sans doute beaucoup plus de champignons que les 100 000 d'espèces qui sont représentées ici. Et vous voyez que les animaux, la diversité animale est énorme, et que dans cette diversité animale, il y a un savant anglais à qui on avait posé la question de cette diversité et qu'est-ce qu'elle lui évoquait pour lui, et il avait répondu: ça prouve que Dieu a un goût immodéré pour les coléoptères. Parce que, en fait, au sein des animaux, qu'est-ce qui est le plus représenté? Ce sont les arthropodes. Arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les araignées, les crustacés, les myriapodes, etc. Et au sein des arthropodes, qu'est-ce qui est le plus représenté? Ce sont les insectes, avec un goût immodéré, effectivement, pour les coléoptères. Coléoptères, c'est-à-dire les coccinelles, les scarabées, etc., les hannetons, hein, une quantité de coléoptères absolument faramineuse. Le nombre d'insectes estimé à l'heure actuelle, c'est 1,2 million. Enfin, selon ça change. Mais pardon, connu, décrite, mais estimé. Les dernières estimations disent peut-être 8 millions et demi. On était monté à des estimations beaucoup plus grandes. Tout ça pour vous dire que, en fait, il y a un nombre incroyable d'insectes sur notre planète, et il y a beaucoup de plantes, et notamment pas mal de plantes à fleurs, hein, et que ces deux groupes représentent quand même une part importante de la biodiversité terrestre. Et c'est pas étonnant qu'il y ait pas mal d'interactions entre ces deux groupes, mais vous allez voir qu'il y a d'autres raisons, entre guillemets, pour lesquelles il y a des interactions spéciales entre ces groupes. Alors, ce monsieur barbu que vous voyez ici, il est très connu, hein, c'est Charles Darwin. C'est quelqu'un, sans doute le personnage le plus important en biologie, parce que, comme a dit un autre biologiste, hein, rien à l'heure actuelle en biologie ne fait sens si ce n'est à la lumière de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que monsieur Darwin a apporté une explication de l'existence de tous ces êtres vivants, et surtout ce que monsieur Darwin a apporté comme nouveauté au monde en 1859 dans son ouvrage sur l'origine des espèces, ça a été de nous expliquer que tous ces êtres vivants sont apparentés, tous dérivent de formes ancestrales, hein, et que nous avons des ancêtres communs avec votre chat, mais aussi avec un escargot, et aussi avec un champignon. Ça peut sembler pas si étonnant avec le chat, finalement, quand on regarde bien comment est fichu un chat et comment nous sommes nous-mêmes, on se dit oui, il y a des choses en commun. Avec un champignon, ça peut nous sembler étrange, mais monsieur Darwin nous explique que l'évolution des espèces fait que, à partir de formes ancestrales, eh bien, tout s'est déroulé, toute une évolution, et sont apparus tout un tas d'espèces. Le mécanisme de cette évolution, pour Darwin, c'est la sélection naturelle. Et à savoir que les espèces se diversifient sous certaines pressions qu'on appelle des pressions de sélection. Darwin, dans sa sélection naturelle, avait surtout insisté sur le fait que les animaux se modifiaient au cours du temps sous l'effet d'un certain nombre d'événements de leur environnement physique. Il n'avait pas mis l'accent essentiellement sur le fait que l'évolution pouvait se faire sur une espèce du fait de l'influence d'autres espèces, même si il en a parlé, hein, mais il n'a pas encore utilisé le terme que l'on utilise maintenant de coévolution, à savoir que les êtres vivants agissent les uns sur les autres et que c'est un des facteurs de l'évolution. Néanmoins, Darwin a été un précurseur dans ses idées de coévolution. Un exemple: Darwin, après son ouvrage de 1859 sur l'origine des espèces, a écrit d'autres ouvrages, il en avait écrit avant, mais notamment plus tard, il a écrit un ouvrage sur les orchidées. Et alors qu'il était en train de terminer cet ouvrage sur les orchidées, il reçoit une orchidée qui lui est envoyée de Madagascar. Darwin était déjà très connu, il avait des correspondants dans le monde entier, et il reçoit donc par courrier une orchidée séchée, une magnifique orchidée blanche, par la poste. Et voilà, son correspondant lui dit de regarder cette orchidée qui est extraordinaire, parce que vous voyez la fleur est blanche, et sous la fleur il y a un éperon très 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 long, il fait une trentaine de centimètres, et au bout de cet éperon très long, il y a une glande à nectar. Et alors Darwin, voyant cette fleur, se dit « c'est bizarre la façon dont est construite cette fleur. Si cette fleur existe, c'est que il y a quelque part, à Madagascar, un animal qui est capable de la polliniser et qui est capable d'aller chercher le pollen dans la fleur. Et pour aller chercher le pollen dans la fleur, il va chercher le nectar tout au fond de cet éperon très long. » Donc c'est forcément un animal qui a une trompe très longue. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à Madagascar qui a une trompe très longue? C'est pas un éléphant. Il n'y a pas d'éléphant à Madagascar, donc ça peut pas être un éléphant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il réfléchit un peu, il se dit qu'est-ce qui pollinise les orchidées, des insectes? Quel animal peut avoir une trompe très longue? Un papillon. Donc il imagine l'existence d'un papillon qui serait le pollinisateur de cette orchidée. Les idées d'évolution ont diffusé en toute l'Europe, dans tout le monde, mais il y a encore des réticences. Et quand Darwin voit une fleur comme ça et imagine l'existence d'un papillon, ça fait rire certaines personnes hein, qui n'y croient pas et qui disent maintenant voilà que Darwin affabule et qu'il invente des espèces qu'on ne connaît pas. Et il y a même un pari qui s'est tenu là-dessus sur l'existence de cette orchidée. Eh bien Darwin avait raison, mais il a fallu attendre 130 ans pour découvrir cette orchidée. Elle existe à Madagascar. On a trouvé cette orchidée qui s'appelle à ce nom magnifique, hein, un peu bizarre, Xanthopan morgani praedicta. Pourquoi en trois noms? Parce que c'est une sous-espèce d'un papillon qui s'appelle Xanthopan morgani qu'on trouve en Afrique. Et la voilà, cette espèce, donc, qui a été décrite en 1981, donc effectivement 130 ans après la découverte de l'orchidée. Et cette espèce est effectivement pourvue d'une trompe très longue. Cette espèce va chercher le nectar dans l'éperon de l'Angraecum, hein, de l'orchidée, et ce faisant, en allant chercher le nectar, elle pose son front contre la fleur, récupère le pollen et va diffuser le pollen. Donc, vous voyez la force prédictive de la théorie de Darwin. Et là, cette force prédictive, on la voit dans un contexte qui est un contexte de coévolution, c'est-à-dire que l'on comprend que ces deux espèces sont très fortement liées l'une à l'autre. Parce qu'on comprend que qui est-ce qui peut polliniser cette fleur? C'est ce papillon. Et sans doute personne d'autre. Et en fait, cette fleur est très rare. Et cette fleur, elle est menacée parce que si ce papillon disparaît, elle disparaîtra. Donc il y a des liens très forts entre les espèces. En voilà un exemple. Darwin l'avait déjà dit. Cette idée de coévolution, le fait que les êtres vivants évoluent en exerçant des pressions de sélection les uns sur les autres. Cette idée de coévolution. Alors, un exemple très simple, c'est la gazelle et le guépard. Là, c'est une relation entre un prédateur et une proie. La gazelle, elle court très vite. Donc, dans une population de gazelles, c'est celle au pluriel qui court le plus vite qui ont le plus de chances d'échapper à un guépard. Donc, du coup, dans les populations de guépards, c'est ceux qui courent le plus vite qui ont des chances d'attraper les gazelles qui courent le plus vite. Donc il y a une espèce de course aux armements comme ça qui fait que eh bien, les gazelles courent de plus en plus vite au cours de l'évolution, les guépards courent de plus en plus vite. On en arrive à la situation actuelle où les gazelles courent très vite, les guépards courent très vite également. Donc c'est cette interaction entre ces deux espèces qui explique la rapidité de ces deux êtres vivants, de ces deux animaux. Eh bien, ceci, Darwin l'avait vu, mais il n'y avait pas accordé sans doute toute l'importance que ça peut avoir en termes de moteur de l'évolution. Et c'est cet autre monsieur, un autre barbu, mais là, vous voyez, à son look, il ne doit pas être de 1850, lui. Il est plutôt de 1970. Un théoricien donc qui s'appelle Van Vallen, qui est à l'origine d'une théorie qui est la théorie de la reine rouge. Qu'est-ce que c'est que cette théorie bizarre? Ben, ça dit en termes scientifiques ce que je viens de vous expliquer. À savoir que les êtres vivants évoluent, mais ils évoluent essentiellement, pas seulement, mais beaucoup, parce qu'ils influent les uns sur les autres. Alors pourquoi cette idée de la théorie de la reine rouge? Eh bien, ça fait référence à un personnage de Lewis Carroll que vous connaissez bien, Alice, d'Alice au Pays des Merveilles. Dans le deuxième tome d'Alice, qui s'appelle De l'autre côté du miroir, il y a un moment où Alice est en train de courir, donc elle est figurée ici, vous voyez Alice avec ses cheveux blonds, qui est en train de courir en donnant la main à la reine de cœur, hein, c'est une carte à jouer. Elles sont en train de courir toutes les deux, et elles courent vite, et qu'observe Alice, c'est que, en dépit du fait qu'elles sont en train de courir, le paysage ne bouge pas. Alors Alice pose la question à la reine, lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, la reine lui explique que ici, dans le monde où nous sommes, dans le monde merveilleux, hein, dans le monde d'Alice au pays des merveilles, eh bien, si on ne court pas, eh bien, en fait, on recule. On est obligé de courir pour courir en même temps que le paysage qui défile. Et ça, c'est une métaphore, hein, c'est une image pour expliquer, hein, de la part de Van Vallen, pour expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que les êtres vivants sont soumis à des pressions de sélection, ils évoluent en permanence, mais c'est jamais fini, parce que cette course aux armements est permanente. C'est-à-dire que les êtres vivants agissent en permanence les uns sur les autres, de telle façon qu'ils se modifient perpétuellement. Alors ça se voit pas comme ça, évidemment, ça se fait sur des millions, des centaines de millions d'années, mais dans certains cas, ça peut se voir quand même à une échelle qui se rapproche de notre échelle temporelle à nous. Alors, on va voir ce qu'il en est pour les deux catégories d'êtres vivants dont je vous ai parlé, les végétaux et les animaux. Comment définir très brièvement, hein, c'est plus compliqué que ça, mais ce que j'entends par végétal et animal et ce qu'on va retenir des végétaux et des animaux ici. Qu'est-ce que c'est qu'un végétal ? Mais clairement, un végétal, on parle ici de végétaux supérieurs, mais un végétal, c'est avant tout un être vivant autotrophe, capable de se nourrir lui-même, capable de produire de la matière organique. Il n'a pas besoin d'autres êtres vivants pour notamment obtenir du carbone grâce à la photosynthèse. Un arbre, une plante, a des feuilles, capte la lumière du soleil, pompe de l'eau dans le sol, des sels minéraux, et c'est suffisant. C'est suffisant pour vivre, survivre, se reproduire. Il n'a pas besoin pour son énergie, pour du carbone, pour créer ce qui le constitue, n'a pas besoin d'autres êtres vivants. Une autre caractéristique des végétaux, c'est l'immobilité. C'est-à-dire qu'un être vivant autotrophe, en fait, va faire toutes ses fonctions, va opérer toutes ses fonctions sur place. Il capte la lumière du soleil, il pompe l'eau dans le sol et les sels minéraux dans le sol. Un animal, maintenant, va se différencier d'un végétal par ce caractère d'hétérotrophie. Hétérotrophie, hein, c'est une racine grecque, ça veut dire que pour se nourrir, il a besoin des autres. Il a besoin de qui ? Eh bien, fondamentalement, des végétaux. C'est-à-dire que un animal aura besoin des végétaux pour survivre, un herbivore va manger des plantes, un autre animal carnivore va manger des animaux qui, eux, sont herbivores, etc., etc. Mais fondamentalement, les animaux sont des êtres vivants, hétérotrophes. Ils ont besoin d'autres êtres vivants pour fixer du carbone et pour constituer leur corps et pour vivre, survivre. Alors, ceci a un corollaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est hétérotrophe, on a besoin de se nourrir d'autres êtres vivants. On peut difficilement rester sur place, hein, c'est rarement le cas. Il y a quand même des cas, on va revenir. Mais en général, ces animaux, les animaux, c'est leur étymologie aussi, hein, animaux, anima, animé. Ces animaux sont animés. Alors, non seulement ils sont hétérotrophes, ce qui va souvent avec, ils sont mobiles. Et en général, quand on demande aux gens la différence entre un animal et un végétal, ils pensent tout de suite à ça. Mobilité versus immobilité. Mais en fait, c'est une conséquence de un choix, entre guillemets, bien entendu, entre des stratégies d'être vivant, qui sont des stratégies d'être vivant autotrophes, versus des stratégies d'être vivant hétérotrophes. Donc, d'un côté, autonome en quelque sorte, et immobile. De l'autre côté, hétéronome, hein, mais mobile. Donc, voilà ce qui les différencie. Alors, un petit peu de poésie, hein, Francis Ponge, un poète français, a très bien illustré ça, hein, je vous le laisse lire, c'est vraiment vu sous l'œil d'un poète, hein, la faune bouge, tandis que la plante se déplie à l'œil, l'expression des animaux est orale ou mimée par des gestes qui s'effacent les uns les autres, l'expression des végétaux est écrite une fois pour toutes, chacun de leurs gestes laisse une présence, une naissance irrémédiable et non détachée d'eux. C'est-à-dire que Francis Ponch, avec ses mots à lui, il l'a bien dit, a bien différencié végétaux et animaux. C'est-à-dire que, en général, quand on est un animal, on est mobile. Quand on est un végétal, on est immobile et on se déploie. Alors, il y a des exceptions dans l'imaginaire. Hein. Là, je vous ai montré des exemples dans l'imaginaire d'êtres mixtes entre les végétaux et les animaux. Pour ceux qui connaissent les Ents, hein, avec le Seigneur des Anneaux. Et puis d'autres exemples empruntés à la bande dessinée. Mais en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ça existe un peu quand même, parce qu'en biologie, il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants qui peuvent être intermédiaires. Il y a quand même des êtres vivants qui sont des végétaux et qui sont quand même pas totalement autotrophes et qui ont un certain degré de mobilité, les plantes carnivores. Tout ça, c'est par réponse à une pauvreté des sols. Le sol est pauvre, il n'y a pas suffisamment d'azote, notamment dans le sol. Eh bien, la plante, au cours de l'évolution, a inventé un moyen de subvenir à ses besoins en azote en devenant carnivore, c'est-à-dire en acquérant quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'animalité par son mouvement hein, et par son hétérotrophie. De la même façon, dans le monde vivant, il y a des animaux qui vivent comme des plantes. Les coraux sont des animaux, hein, ce sont clairement des animaux, mais ils vivent comme des plantes, ils vivent immobiles. Et comme les animaux, eh bien, ils sont bien hétérotrophes, hein, comme tous les animaux, mais ils ont quand même une petite partie d'eux-mêmes qui est un petit peu presque autotrophe, dans la mesure où ils vivent en symbiose avec des algues qui, elles, captent la lumière du soleil. Et en fait, ils sont associés à des petites algues chlorophylliennes qui font qu'ils ont quelque chose de plus encore de l'ordre du végétal. Donc, vous voyez, deux grandes catégories d'êtres vivants, hein, les végétaux et les animaux, qui ont des caractéristiques très différentes, avec quand même des êtres vivants un peu intermédiaires sur le plan de ces caractéristiques, autotrophie, hétérotrophie d'un côté, mobilité, immobilité de l'autre. Mais clairement, on va revenir donc aux végétaux tels qu'on les entend classiquement, aux animaux tels qu'on les entend classiquement, et voir qu'il y a des interactions entre ces êtres vivants, et que ces interactions découlent beaucoup de ces caractéristiques dont je viens de vous parler. Alors, ces interactions entre êtres vivants, qu'il s'agisse de plantes et animaux ou de tout être vivant d'ailleurs, mais pour le cas qui nous intéresse, ces interactions peuvent être positives ou négatives. Par exemple, la prédation, le parasitisme, ce sont des interactions négatives. Hein. Prédation, je vous ai parlé de la gazelle, je vous ai parlé de l'antilope, c'est un rapport négatif. C'est-à-dire que ça se fait à l'avantage d'un individu, mais pas à l'avantage de l'autre. Donc ça, on parle de négative. Le parasitisme, c'est pareil. Un animal parasite un autre. Donc c'est une interaction considérée comme négative. Il y a aussi des interactions positives, ce qu'on appelle les mutualismes, les symbioses. Et dans ce cas-là, les deux êtres vivants bénéficient de l'association, bénéficient de leur interaction. On parle d'association. Alors, ces interactions vont être donc, je vous l'ai dit, positives ou négatives. Ces interactions peuvent être aussi des interactions fortes ou des interactions faibles. J'entends par interaction forte l'exemple de l'orchidée de Darwin, par exemple. Là, on a une interaction forte. On a bien compris que cette orchidée ne peut être pollinisée, a priori, que par ce papillon. Donc, il y a un lien très fort entre les deux. Une interaction faible, c'est par exemple la vache qui broute dans un pré. C'est une interaction entre la vache et d'autres êtres vivants, les végétaux. Mais la vache, elle s'en contrefiche. Enfin, si elle va éviter certaines plantes qu'elle reconnaît comme toxiques, on va y revenir, ou qu'elle n'aime pas, mais l'interaction est assez lâche entre la vache et les végétaux qu'elle broute. C'est-à-dire que leur sort, leur avenir n'est pas lié intimement, comme dans le cas de l'orchidée et du papillon dont je vous ai parlé précédemment. Parmi les interactions plantes-animaux, eh bien, il y en a plusieurs types. Il y a les interactions de type alimentaire et antiprédatrice. Je résume, manger, ne pas être mangé, on en a déjà parlé, hein, les herbivores qui mangent des plantes. Et ne pas être mangé, ça va être toutes les stratégies ou toutes les stratégies que la plante va mettre en place pour ne pas être mangée par les animaux. Autre type d'interaction entre plantes et animaux, c'est ce que j'appelle la mobilité par procuration. Rappelez-vous, les plantes sont immobiles, les animaux mobiles. Eh bien, il va y avoir un moment où il va y avoir complémentarité entre des individus appartenant au règne végétal et d'autres au règne animal. Et la coévolution va démarrer à ce moment-là et éventuellement va devenir quelque chose de qui va s'accentuer. De façon à ce que les plantes, en quelque sorte, ont besoin des animaux pour un certain nombre de choses, comme par exemple le transport du pollen, pour la fécondation des fleurs, ou le transport des graines, c'est-à-dire la dissémination. Pour des raisons génétiques, il est intéressant à ce qu'une plante à fleurs ne s'autoféconde pas. Il vaut mieux que le pollen soit dispersé. la dispersion peut se faire par le vent, mais il y a énormément de cas où la dispersion se fait par des animaux. Pour les graines, c'est pareil. Un arbre produit des fruits, dans ses fruits il y a des graines, ces fruits tombent au sol, les graines tombent sous l'arbre mère, s'il reste là, eh bien le petit arbuste il est condamné. Donc il vaut mieux que la graine soit dispersée, disséminée on dit. Il vaut mieux qu'elle soit disséminée. Eh bien cette dissémination peut être le vent aussi, l'eau, etc. Mais dans de nombreux cas, la dissémination se fait par un vecteur, un intermédiaire animal. Vous avez bien compris ? Il y en a qui sont immobiles. Ils ont besoin quand même d'être mobiles à un certain moment de leur vie, crucial, la reproduction. Eh bien, entre guillemets, ils font appel. Ça se passe pas comme ça, hein. C'est pas finaliste, c'est pas une finalité. Mais ce qu'on observe, c'est que les processus d'évolution de ces êtres vivants ont progressivement amené à des scénarios qui font que ces êtres vivants interagissent de façon à ce que certains animaux transportent le pollen des plantes à fleurs, certains animaux transportent les graines des plantes à fleurs et à fruits, etc. Un autre exemple d'interaction entre ces animaux et ces plantes, c'est celui de la protection. La plante, encore une fois, elle est immobile. Et la plante est soumise à un certain nombre de dangers et d'agressions. Et quand un animal est soumis à un certain nombre d'agressions et de dangers, que fait l'animal ? La première chose qu'il peut faire, c'est fuir. La plante, elle ne peut pas. On a rarement vu un chêne partir en courant. Donc, comment se protéger ? Comment se protéger contre ces agresseurs que sont les autres êtres vivants, animaux, les herbivores ? Eh bien, les plantes, au cours de leur évolution, ont mis au point tout un tas de systèmes pour se défendre, et certains de ces systèmes font appel à des animaux. On le verra avec les fourmis. Alors, voilà, juste en quelques mots, hein, je reviens sur les interactions alimentaires et antiprédatrices. Donc voilà des exemples donc d'interactions alimentaires. Hein, tous ces animaux, hein, aussi diversifiés qu'une chenille, une antilope ou ici un paresseux, donc sont des animaux herbivores et donc une interaction ici négative entre des êtres vivants. Ici, on a une interaction a priori négative, c'est la frugivorie. C'est-à-dire que ces animaux, c'est encore plus finalement problématique pour les végétaux, parce que ces animaux, ils se contentent pas de manger des feuilles, ils mangent aussi les fruits, c'est-à-dire les organes reproducteurs, les organes qui vont assurer la pérennité de la plante. Donc, ils sont frugivores, ils sont granivores, mais on va le voir, cette frugivorie-granivorie qui est une interaction négative peut et souvent se transforme en une interaction positive. Tout simplement parce que ces frugivores ont mangé le fruit. Ce fruit est très attractif, mais les graines, par exemple, vont passer dans leur système digestif et seront rejetées plus loin, parce qu'entre-temps, l'animal s'est déplacé et il y aura dissémination. Là, vous avez un exemple, c'est une fourmi granivore. Typiquement, cette fourmi est une fourmi prédatrice de graines. Elle mange les graines, donc a priori, elle a un effet négatif sur la plante. Mais ces fourmis granivores sont des fourmis qui font des réserves. Elles accumulent des graines dans des petites cachettes près de leur nid et de temps en temps elles les oublient. Et en fait, les graines vont se mettre à germer. Donc ces fourmis granivores qui ont une interaction négative vis-à-vis de la plante, en fait, il s'avère qu'à terme peuvent avoir une action positive sur la transmission des graines. Alors, des végétaux sont soumis de la part des herbivores à l'herbivorie, justement. Cette herbivorie, c'est rarement de la prédation au sens où l'herbivore dévore complètement une plante. Vous avez un arbre, on a rarement un herbivore qui va manger tout l'arbre. En général, il n'en mange qu'une partie, de même pour une plante qui est au sol. Quand la vache va brouter de l'herbe, elle broute l'herbe, mais elle ne tue pas la plante. Hein. Là aussi, on trouve finalement le mode de défense le plus extraordinaire qu'ont inventé les végétaux. C'est-à-dire que c'est rarement le cas chez un animal qu'on puisse manger une partie de cet animal et qu'il puisse continuer de vivre. Chez les végétaux, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que les végétaux n'ont en général pas d'organes spécialisés. Hein, ils sont beaucoup plus différenciés, leurs organes. Et donc, c'est une façon finalement de résister à l'impact des herbivores. La nature est bien faite, entre guillemets. On reviendra sur cette expression. Donc, vous voyez une différence quand même fondamentale avec les végétaux, donc avec les animaux. Une autre stratégie des végétaux sous les tropiques, par exemple, pour se protéger contre les herbivores, hein, j'ai écrit ici flush, c'est un terme anglais pour dire que sous les tropiques, comme ici, vous voyez cet arbre a des feuilles toutes vertes et il y a des feuilles toutes jaunes. Ces feuilles jaunes sont des jeunes feuilles, toutes jeunes, elles viennent d'être produites. Eh bien, on n'est pas dans un pays où il y a des saisons, comme chez nous, du moins pas des saisons aussi marquées. Les arbres produisent en permanence des feuilles, mais n'allez pas croire qu'ils produisent des feuilles une de temps en temps comme ça. Ils produisent des feuilles par paquets comme ça, tout d'un coup. Et ça, c'est une façon de lutter contre les herbivores. À savoir que si les feuilles jeunes, tendres, faciles à manger, étaient produites en permanence, il y aurait toujours des insectes pour les brouter. Là, l'arbre produit une grande quantité de feuilles d'un coup. Les insectes herbivores qui sont présents vont en manger une partie, mais les feuilles en question, le 90% par exemple, vont ne pas être mangées et vont avoir le temps de vieillir et de devenir plus coriaces, plus résistantes, etc., etc. C'est un mode de défense des végétaux contre les animaux. Autre mode de défense, des modes de défense mécaniques. Vous les connaissez tous, les épines, les aiguilles, les orties qui piquent, etc. Pourquoi est-ce que les orties piquent? Pourquoi est-ce que l'épine noire, la prunelle a des épines? Je ne sais pas si c'est de la prunelle, mais ça y ressemble. Pourquoi des épines dans le monde végétal? Pourquoi est-ce que les végétaux produiraient des choses comme ça? Pas pour vous embêter uniquement, hein. C'est pas seulement pour que, c'est pas pour nous. Faut arrêter de regarder le monde qui nous entoure, les êtres vivants qui nous entourent en fonction de ce que ça a comme conséquence directe sur Homo sapiens et uniquement Homo sapiens. S'il y a des épines, s'il y a des aiguilles, eh bien, ces végétaux ont produit ces structures pour se protéger ici contre des herbivores, en général des herbivores qui vont être des mammifères. Donc c'est une façon d'écarter des mammifères herbivores. Donc c'est une défense mécanique. Et c'est tout à fait, donc, ça, c'est apparu au cours de l'évolution, hein, et c'est quelque chose qui est le résultat d'une coévolution entre des plantes qui sont soumises à l'agression d'herbivores et qui se défendent et qui inventent des mécanismes complexes pour se défendre. Une autre façon de se défendre pour les plantes redoutable, c'est la défense chimique. À savoir que un grand nombre de plantes se défendent chimiquement. C'est-à-dire qu'un grand nombre de plantes sont des producteurs de produits qui sont des produits dont vous avez entendu parler, la strychnine, qui est un produit, un poison violent, la morphine, qui est une drogue violente. Certes, ce sont des poisons, mais tout de suite, vous comprenez que ce sont aussi des substances qui ont des propriétés médicinales. Alors, comment est-ce qu'on explique cette histoire? Voilà par exemple l'histoire d'interaction donc entre animaux et en plantes et de défense des plantes. Imaginez par exemple cet exemple. Hein, ici, vous avez une plante qui s'appelle l'asclépiade. Cette asclépiade est une plante qui est pleine de composés qui sont des glycosides cardiaques, hein, qui sont des composés qui, si vous les avalez, vont vous causer un certain nombre de problèmes. Je ne suis pas du tout un médecin, donc je ne sais pas exactement, mais problèmes de blocage cardiaque, etc. Eh bien, ces substances sont des substances qui agissent sur nous, mais qui agissent aussi sur les insectes, et qui sont donc des substances qui vont être dangereuses, mortelles et répulsives pour les insectes. Donc les insectes vont éviter cette plante. Mais la coévolution fait que on est toujours dans des processus de course aux armements. C'est-à-dire que vous trouverez toujours dans la nature, même chez la plante la plus toxique, un animal qui est capable de la manger et qui s'est spécialisé sur cette plante. Et c'est le cas du papillon monarque. La chenille du papillon monarque est une chenille qui est spécialisée sur les asclépiades. Alors elle s'en contrefiche des glycosides en question, elle les dévore, elle les stocke dans son corps, et ça lui fait rien. Et donc la chenille se développe, ça donne un papillon, un magnifique papillon monarque, qui lui-même est toxique, il est blindé, il est plein de ces substances toxiques. Donc ce papillon est toxique, la chenille est toxique. Regardez les couleurs de ce papillon. Ces couleurs, on dit aposématiques, signal danger. Ce papillon signale qu'il est dangereux. Sa chenille signale qu'il est dangereux par ses couleurs vives. Cet oiseau ne le sait pas, c'est un oiseau naïf, il n'a jamais vu ce papillon. Il en attrape un, il veut l'avaler, il le recrache et il se met à régurgiter. C'est-à-dire que le pauvre oiseau a goûté ce papillon qui a un mauvais goût, il le rejette, il va se souvenir de cette expérience, il ne touchera plus au monarque. Les plantes se défendent, je suis allé un peu loin, hein. Les plantes se défendent, c'est le résultat d'une coévolution avec leurs prédateurs, mais il y a des prédateurs, enfin des herbivores qui vont passer outre, qui vont se spécialiser sur cette plante et qui vont contourner les défenses de la plante, Et ici, on a même un mécanisme dans lequel, eh bien, cet animal lui-même va se servir de la défense de la plante pour se défendre contre ses propres prédateurs. Vous voyez les conséquences de toute cette défense chimique. Plus intéressant pour nous, j'ai dit, il ne faut pas se centrer, faire de l'anthropocentrisme, se centrer uniquement sur nous, mais on y vient quand même un peu. Une conséquence de la défense chimique des plantes, c'est que les plantes sont pour nous des sources de médicaments. Ah oui, c'est extraordinaire. Quelle idée ils ont eue d'aller chercher des médicaments dans les plantes. C'est quand même, le monde est bien fait. Hein. C'est quand même extraordinaire. Nous, êtres vivants, êtres humains, nous sommes soumis à un certain nombre de maladies. Et nous vivons dans un monde où il suffit d'aller chercher certaines plantes et on trouve des médicaments qui guérissent ces maladies. C'est extraordinaire quand même, comme le monde est bien fait. Ça, cette idée de la nature bien faite, c'est tout à fait la démarche de cet auteur classique, Henri Bernardin de Saint-Pierre, qui trouvait fascinant les melons, qui étaient pour lui une preuve que la nature était bien faite. Hein. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. On retrouve le Candide de Voltaire. Le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille. La citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. Ça fait sourire. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a comme idée? Il y a l'idée d'un monde parfait, créé par une instance divine, que tout est mieux, tout pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais effectivement, parfois on a cette impression, sans aller jusqu'à dire que les melons ont été prévus pour être découpés, mais effectivement, dans le monde, on trouve dans les plantes, chez des êtres vivants, des composés qui peuvent appartenir à notre pharmacopée. Mais vous avez bien compris avec tout ce que j'ai dit que tout ceci n'est pas un résultat de je ne sais quelle instance qui fait que le monde est bien fait. Le monde est bien fait ou alors c'est le résultat d'une évolution, à savoir que les plantes se défendent contre leurs agresseurs herbivores, que ce soit des insectes, que ce soit des mammifères, et elles se défendent avec des composés chimiques. Elles ont inventé au cours de leur évolution un certain nombre de composés chimiques de plus en plus complexes. Ces composés chimiques sont des composés chimiques, pour la plupart d'entre eux, qui agissent sur le système nerveux des insectes. Certes, nous ne sommes pas des insectes, mais notre système nerveux, nos neurones, fonctionnent à peu près de la même façon que les neurones d'insectes. Donc ce qui aura de l'effet sur le fonctionnement des neurones d'insectes aura aussi de l'effet sur le fonctionnement, par exemple, des liens neuromusculaires qui interviennent sur le fonctionnement de notre cœur. Donc c'est pas surprenant qu'on trouve des substances qui aient des applications pharmacologiques dans des plantes. Hein. C'est pas quelque chose qui est surprenant quand on comprend comment tout ceci s'est passé. Voilà, j'ai résumé là, hein, et vous retrouvez par exemple des molécules particulières dans le café, le tabac, etc. Enfin, le tabac, la nicotine, c'est un insecticide avant tout. Hein. Donc, le tabac, eh bien, c'est une plante originaire d'Amérique qui a des molécules de nicotine pour se protéger contre les insectes, etc., etc. Autre exemple plus récent, hein, des découvertes récentes, hein, de substances, le Taxol chez Leaf, hein, qui a des propriétés anticancéreuses, la pervenche de Madagascar aussi qui a des propriétés anticancéreuses. Donc voilà des exemples de médicaments issus donc des plantes. Et encore une fois, ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que tout cela est le résultat d'un processus de coévolution entre les plantes et les animaux, essentiellement ici les insectes herbivores. Les plantes se défendent chimiquement, et voilà toutes les conséquences en cascade. Les défenses peuvent être indirectes. On a vu plusieurs défenses, hein, des plantes, donc le flush, on a vu les épines, on a la défense chimique. Ici, une défense indirecte. C'est pas la plante qui se défend directement. La plante, pour se défendre, elle fait appel à d'autres animaux. Elle est agressée par des animaux, eh bien, elle va faire appel, entre guillemets, à d'autres animaux. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, certaines plantes ont développé des structures particulières qu'on appelle des nectaires. Plus précisément, on les appelle des nectaires extrafloraux, en dehors de la fleur, hein, qui sont situés à peu près partout sur la plante, en dehors de la fleur. Ces nectaires produisent, comme leur nom l'indique, du nectar, une substance sucrée, très attractive, notamment pour les fourmis. Ces nectaires, on les trouve à peu près, pas sur toutes les plantes des tropiques, mais sur un nombre très très important de plantes tropicales, un grand nombre d'arbres tropicaux, ce qui fait que ces arbres attirent les fourmis. Ce qui fait que les fourmis vont se promener en permanence sur ce grand corps végétal. En permanence, les fourmis vont patrouiller les arbres pour trouver du nectar. En conséquence de quoi, ces fourmis étant par ailleurs agressives pour la plupart d'entre elles et prédatrices, elles vont chasser les herbivores qui se promènent sur l'arbre. Donc ici, on a une relation qui n'est pas une relation étroite, qu'une relation relativement lâche, entre un groupe d'animaux, les fourmis arboricoles, et des plantes, les arbres tropicaux, les arbres tropicaux bénéficiant de cette défense. Cette association, en général, est non spécifique, plutôt lâche. Encore une fois, là, ce sont dans les deux cas, ce sont des fourmis tropicales. Ici, c'est sur un acacia tropical. Ici, c'est sur un autre arbre avec une fourmi ectatoma qui sont en train de visiter un nectaire. Ces fourmis patrouillent sur les arbres, les protègent. Encore une fois, ce sont des associations relativement lâches. Mais à ces associations lâches peuvent faire place au cours de l'évolution, dans certains cas, des associations plus étroites, où la plante ne se contente pas de fournir de la nourriture à la fourmi, mais lui fournit aussi un logement. Et là, on rentre dans un autre monde, qui est celui des myrmécophytes, les plantes à fourmis. La définition d'une plante à fourmis, eh bien, c'est une plante qui, au cours de son développement, produit des structures creuses qui sont aptes à héberger des fourmis. Les fourmis vont habiter dans la plante et vont y demeurer en permanence. C'est ça, une plante à fourmis ou un myrmécophyte. Et ces structures creuses, on appelle ça des myrmécos. Myrmécos, c'est fourmis. Domacies comme domus, la maison, donc des petites maisons à fourmis. Ces plantes ont des petites maisons à fourmis, ce qui fait qu'elles accueillent en permanence ces fourmis qui vont les protéger. Et bien entendu, ces plantes, en même temps, la plupart du temps, ont des structures pour nourrir les fourmis, et notamment des nectaires. Vous avez un exemple à gauche ici d'un acacia africain avec ce que vous voyez là, la boule marron, c'est pas une gale, c'est pas une maladie, c'est une structure produite par la plante naturellement. Les fourmis vivent à l'intérieur. Donc vous voyez, cette plante se protège avec des épines contre par exemple les girafes et autres, et elle se protège d'ailleurs aussi contre les girafes avec ses fourmis qui sont des fourmis très agressives et qui habitent la plante. Au-dessus, un autre exemple d'interaction similaire, c'est avec des acariens. Il y a certaines plantes qui, au niveau des feuilles, ont des petits abris, qui sont des petites maisons, là encore, des acarodomacies, des petites maisons à acariens. Vous trouverez des acariens qui y résident. Ces petits acariens sont des acariens carnivores, prédateurs, qui chassent les acariens herbivores qui mangent la surface de la feuille. Ça, vous trouvez ça chez nous, sur l'aulne glutineux, l'aulne au bord de nos rivières. Vous regardez les nervures des feuilles, il y a des petits poils comme ça. C'est un endroit où se réfugient certains acariens carnivores. Bien, on va rentrer un peu plus dans les fourmis. Donc voici d'autres exemples de myrmécophytes. Ça, c'est un exemple de, là encore, ce sont des arbres des tropiques américains. À gauche, vous avez un exemple d'un Cecropia. On appelle ça aussi bois canon. Vous voyez comment est fait le Cecropia. C'est un arbre pionnier, c'est-à-dire c'est un arbre qui pousse très vite sur des endroits où il n'y a rien. Donc c'est un des premiers à arriver. Il pousse très vite. Et un de ses secrets pour pousser très vite, c'est qu'il est creux. C'est-à-dire que son tronc est totalement creux, et en fait, ce tronc est une domacie. Ce tronc, c'est un habitat pour les fourmis. Et cet arbre-là va pousser, et en même temps qu'il pousse, la société de fourmis qui est à l'intérieur va grandir, et il y a des dizaines, des centaines, voire des millions, chez certains Cecropia, de fourmis, de petites fourmis, qui appartiennent au genre Asteca, et qui vivent dans cet arbre, et qui le protègent. Mais cet arbre fournit aussi de la nourriture aux fourmis. À la base des feuilles, donc vous voyez les feuilles, ces feuilles un peu étranges, pennées, une espèce de la base de ces feuilles, eh bien vous avez une petite structure, un trichium, une petite structure marron, sur laquelle vous avez des petites structures qui sont des corps nourriciers, c'est-à-dire que cet arbre fournit en permanence de la nourriture aux fourmis. Donc là vous avez une association étroite qui est basée à l'origine sur la défense, la plante à trouver entre guillemets un moyen pour se défendre contre les herbivores, en général des insectes, mais ces astécas sont assez agressifs, donc ça empêche un certain nombre d'autres animaux, même des vertébrés, à venir sur le Cecropia. L'arbre est ainsi défendu, mais ça a un coût pour l'arbre. C'est un coût en termes de production, notamment de corps nourriciers, parce qu'il en produit énormément pour nourrir les fourmis. Et là, on a un véritable myrmécophyte, une association avec un arbre à fourmis. Un autre exemple de Cecropia, celui-là est rarissime. J'ai eu la chance d'en voir un, malheureusement, qui avait été détruit par des travaux agricoles au Panama. Celui-ci, c'est pas une Asteca, c'est une Pachycondyla, un autre type de fourmi magnifique, enfin, moi, je trouve. Et vous voyez ici, en ouvrant, donc, la fourmi, là, elle est au-dessus de ses œufs, en blanc. En blanc, ce sont les œufs. Et ce qu'on voit en rouge ici, c'est incroyable. C'est ces corps nourricieux qui ont cette couleur. Et ces corps nourricieux vont lui apporter des protéines, des lipides, etc., etc. Vous voyez, une association étroite. Plante fourmi, la fourmi qui est quand même ici une fourmi qui fait un peu plus d'un centimètre de long, qui est très agressif, qui a un aiguillon qui pique très fort, protège bien l'arbre et l'arbre héberge et nourrit la fourmi. Je reviendrai donc à la fin sur cette relation fourmi, hein, sur la conclusion. Je continue sur les interactions plantes et animaux. On a vu les interactions négatives, à savoir la plante se fait manger par les animaux et la plante se défend. C'est ce qu'on vient de voir. Interactions positives sur lesquelles je vais passer très vite puisque j'en ai déjà parlé. C'est ces interactions plantes-animaux positives qui impliquent une mobilité par procuration. Je vous le rappelle, la plante est immobile. À un certain moment, elle doit se reproduire, elle émet du pollen. Ce pollen, il vaut mieux qu'il aille d'une plante à une autre. Il y a plusieurs moyens, et parmi les moyens, eh bien, il y a les pollinisateurs. Ces pollinisateurs peuvent être des pollinisateurs, ça peut être des insectes, ça peut être des chauves-souris, ça peut être des oiseaux. Ça peut être parfois des pollinisateurs très stricts, comme encore une fois dans le cas du papillon de Darwin. Mais ça peut être aussi des pollinisateurs généralistes, et là vous en connaissez un exemple, vous le connaissez tous, c'est l'abeille. Abeille domestique, Apis mellifera, l'abeille mellifère, hein, qui est un pollinisateur généraliste et qui, évidemment, en termes de l'impact de ce pollinisateur sur l'économie humaine est très très important. Vous savez tous les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle sur le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles et vous voyez les conséquences que ça peut avoir, hein, sur l'agriculture. Donc ça, c'est un pollinisateur généraliste, hein, par opposition par exemple au papillon de l'orchidée de Madagascar. Toujours dans ces interactions plantes-animaux, hein, autre exemple positif cette fois-ci, j'en ai déjà parlé mais je reviens ici, c'est cette mobilité par procuration, hein, c'est la dissémination des graines. Certains animaux interviennent de façon très active dans la dissémination des graines. On avait vu l'aspect négatif au départ, à savoir la granivorie, hein, relation animal-plante, qui est une interaction négative. L'animal est granivore ou frugivore, donc c'est négatif pour la plante. On avait vu que ça pouvait se traduire par quelque chose in fine de positif, par la dispersion, la dissémination. Mais il y a aussi des cas où il y a des interactions positives dès le départ, c'est-à-dire des cas où l'animal fait de la dissémination de graines sans manger ses graines, et ce, ou en mangeant seulement une partie de ses graines. Et cette dissémination positive, les fourmis l'illustrent très bien. Voyez ici un exemple de graines. Et il y a beaucoup de plantes qui font ça, hein. On a les violettes qui font ça, leurs graines font ça. La calidoine, chez nous, sur les murs, avec ces fleurs jaunes, là, des graines qui font ça aussi. Sur la graine, il y a un petit diverticule, vous le voyez aussi au bout de la graine, alors au nom barbare d'élaïosome, peu importe le nom. Quoi qu'il en soit, ce petit diverticule, c'est une structure riche en lipides notamment, qui est très attractive pour les fourmis. Et les fourmis visitent la plante, récupèrent la graine, amènent la graine dans leur nid. Dans le nid, ce petit élaïosome est mangé. Et ensuite, les fourmis vont rejeter la graine à l'extérieur. Du coup, pendant ce voyage, la graine a voyagé, elle pourra germer. Voilà. Là, c'est vraiment une relation qui est une relation positive entre les plantes et les fourmis. On va rester un peu sur les fourmis pour la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, j'ai beaucoup moins de diapos parce que ça risque d'être très 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 long. Je voudrais développer trois exemples d'interactions entre fourmis, ce sera les animaux là, et plantes. Ces trois exemples d'interaction entre plantes et fourmis, il y en a deux, les deux premiers qui seront liés à des myrmécophytes, des plantes à fourmis, et le dernier, le troisième, c'est un exemple particulier de symbiose entre des fourmis et des plantes. Premier exemple, donc je l'ai appelé la plante, la fourmi et l'autre fourmi. Alors, la plante et la fourmi en question, j'en ai déjà parlé, c'est un Cecropia. Donc vous voyez ce Cecropia, cet arbre, je vous le rappelle, son tronc est creux. ce qui lui permet de pousser très vite parce qu'il a moins de matériaux à produire, il pousse très vite, ça tombe bien, c'est un arbre pionnier, tous ses cropias sont en compétition les arbres les uns avec les autres, donc il pousse très vite à la recherche de la lumière et ils sont protégés par les fourmis. Ils sont protégés par les fourmis. À l'intérieur de ces cécropias, on a une société du Nasteca qui s'appelle, voilà, ce cécropia s'appelle Cecropia obtusa, on va dire, et il est habité par une fourmi qui l'habite classiquement. Il y a plusieurs espèces qui peuvent le coloniser, mais en Guyane française où cette étude a été faite, cet arbre est colonisé par l'Asteca ovaticeps. Appelons-la l'Asteca O, par exemple, comme ovaticeps. Donc l'Asteca O vit dans cet arbre. C'est le principe même du myrmécophyte. Elle vit dans le tronc, elle se promène à la surface de l'arbre, elle exploite donc les corps nourriciers qui sont produits par l'arbre. Donc il y a une espèce de système quasi autonome. C'est-à-dire que ces astécas n'ont même pas besoin d'aller au niveau du sol, chasser ou autre. Elles se contentent de se nourrir des corps nourriciers, éventuellement d'attraper les insectes qui se baladent sur l'arbre, les chasser, les manger. Donc vous voyez vraiment ce myrmécophyte, cette plante à fourmis, avec la fourmi qui l'habite, c'est une espèce de système qui a coévolué ensemble et qui fonctionne en quasi-autonomie. Eh bien, il se passe parfois des choses chez cette cécropia, chez cet arbre. Parfois, vous vous promenez sous le cécropia et vous voyez la chose suivante. Donc sur la figure A, là, vous voyez, il y a un petit machin qui est accroché, là, un nid de fourmi en fait. Il y a un nid de fourmi qui est accroché. Alors ça, pour tout vous dire, cette histoire-là, moi, la première fois où je suis arrivé et j'ai un petit peu travaillé sur les Aztèques en Guyane, c'est il y a 23 ans, j'ai vu ça. J'ai vu ça, mais j'étais persuadé que c'était notre Azteca qui habite et qui faisait de temps en temps cette espèce de nid en forme de goutte d'eau. Et que voilà, c'était tout à fait normal, et que ça traduisait peut-être une crise du logement. Je vous ai dit, le tronc est creux, mais il y a dedans, il y a des dizaines de milliers de fourmis, et de temps en temps, il n'y a plus de place, elles font un nid à l'extérieur. On a cru ça pendant bien 20 ans, oh, pas tout à fait, il y a des 15 ans. Puis un jour, on y a regardé de près, et on s'est rendu compte que la fourmi qui faisait ça, c'était pas la même que celle qu'on trouve là avant. Quand on voit l'arbre, cet arbre-là, ce cécropia, dans cet état-là, ou quand on voit dans cet état-là avec Sony à l'extérieur, c'est plus la même fourmi. En fait, on s'est rendu compte que c'est une autre fourmi, parasite de la première. La première Asteca O, ovaticeps, est parasitée par la fourmi A, Asteca A. Alors ça se passe de la façon suivante, ça on ne l'a pas vu, on l'a déduit, on a vu tout sauf ça. On n'a pas vu la reine d'Asteca parasite arriver, pénétrer à l'intérieur de la colonie de l'Asteca O, chercher la reine, parce que c'est ça qui doit se passer, parce qu'on connaît ça chez d'autres fourmis, mais il faut être au bon moment, puis aller voir ce qui se passe dans un arbre où il y a 30, 40, 50 000 fourmis minuscules comme ça qui sortent toutes dès que vous tapotez sur l'arbre, évidemment c'est compliqué. Bien, ce qui doit se passer, c'est que la reine parasite cherche la reine de la société résidence, la tue. Alors comment est-ce qu'elle pénètre? Comment est-ce qu'elle leurre la société des Asteca O, ovaticeps? On ne sait pas, mais c'est sans doute une lutte chimique, un moyen de se dissimuler. Elle pénètre, elle tue la reine. Une fois qu'elle l'a tuée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pond ses œufs, elle, tranquillement. Et les ouvrières d'Asteca résidentes, parasitées, vont s'occuper de ses œufs à elle, et puis de ses larves. Et progressivement, on va avoir une société mixte. C'est-à-dire une société avec une reine parasite, Asteca andreae, avec des milliers d'ouvrières d'Asteca andreae, mais encore des milliers d'ouvrières d'ovaticeps. Une société avec deux types d'ouvrières. On s'en est rendu compte parce qu'il y en a qui sont plutôt rougeâtres et les autres plutôt marron, foncé, noirâtre. Progressivement, ce qui va se passer, c'est que l'Asteca parasite va prendre la place. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que, en fait, quand on a vu ces nids-là et qu'on s'est rendu compte de ça, et au départ, par hasard, on a observé autre chose. On a observé que cet Asteca andreae, on va parler d'elle maintenant, eh bien, avait un comportement particulier. Déjà, elle ne se nourrissait pas des corps nourriciers. Elle s'en contrefiche. Alors, c'est bizarre parce que elle fait un nid à l'extérieur. C'est-à-dire que le tronc creux, elle l'abandonne. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas, elle n'habite pas à l'intérieur du cécropia. Elle va installer son nid dehors. Et son nid, il va grossir en fonction de l'effectif de la colonie. Il va être de plus en plus gros. Et puis, elle se nourrit pas des corps nourriciers, à tel point que l'arbre va cesser de produire des corps nourriciers. C'est quand même extraordinaire. Ce qui prouve que l'Asteca d'origine, en se nourrissant sur les corps nourricieux, stimule l'arbre qui les produit. Quand on va plus les récolter, les corps nourriciers, l'arbre, au bout d'un moment, cesse de les produire. Et quand cette fourmi parasite a pris la place de la fourmi d'origine, eh bien, elle se nourrit pas des corps nourriciers, elle ne vit plus à l'intérieur de l'arbre, elle vit accrochée à cet arbre, et elle fait des choses assez étranges. C'est-à-dire que, le soir, on observe ça, à partir de 17h, avant la tombée de la nuit, et ça dure une bonne partie du début de la nuit, ces fourmis s'alignent comme ça, mais vraiment, des alignements quasi parfaits, vous voyez, là en haut à droite, sous la feuille, et elles attendent. Elles attendent quoi ? Elles attendent qu'un insecte se pose sur la feuille, et là, il y en a quelques-unes qui se ruent sur cet insecte et qui se mettent à l'écarteler. Alors l'insecte se débat, elle le pique, elle le ramène sous le bas de la feuille, et regardez la taille de ce papillon par rapport à ces petites fourmis. Et on a même vu une fois une petite chauve-souris se faire prendre, on ne l'a pas photographiée. On n'était pas, on n'avait pas ce qu'il fallait à ce moment-là, mais les proies peuvent être énormes, des milliers. Le record, je crois que c'est 10 000 à peu près. 10 000 fois le poids d'une ouvrière. Alors, on en a vu des choses avec les fourmis, des choses incroyables, des capacités de traction, des capacités, mais 10 000, ça nous a semblé tellement extraordinaire qu'on s'est dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en plus. Comment est-ce que ces petites fourmis, collectivement, peuvent capturer des proies aussi importantes ? Bien, la réponse, on l'a eu en regardant de près la structure des feuilles de l'arbre. C'est-à-dire que, ici, on a, si vous regardez l'extrémité des pattes des astécas, c'est ce qu'il y a en A, là, à gauche, vous voyez qu'à l'extrémité des pattes de l'astéca, il y a des griffes, vraiment des griffes très, très acérées. Toutes ces fourmis arboricoles ont des griffes. Ces fourmis arboricoles, ces griffes leur permettent d'agripper le feuillage, de marcher la tête au plafond, comme vous avez vu faire des fourmis, mais elles le font encore mieux. Elles ont aussi ce qu'on appelle des aréoles, c'est-à-dire des structures qui font un peu ventouse sur la surface des feuilles. C'est-à-dire que même quand la feuille est mouillée, il n'y a pas de problème, elles adhèrent bien. Mais là, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Regardez la structure en bas de la feuille, de la surface de la feuille. Ça fait une espèce de tapis, là. Et bien, en fait, comme du velours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les griffes et cette structure de la feuille font un effet qu'on appelle effet velcro. Vous connaissez tous le velcro. Qu'est-ce que ça veut dire velcro ? Velours, crochet. Velcro, c'est une marque déposée. C'est passé dans le langage courant. Mais c'est un système d'accrochage qui est basé sur du velours et des crochets. Et bien là, c'est exactement le même système. C'est pas un petit crochet, mais chaque fourmi, elle en a donc deux par patte. Elle a six pattes, 12 par fourmi, vous multipliez par des centaines de fourmis, ce qui fait que ça adhère à cette structure. Et donc là, vous voyez quelque chose qui est de l'ordre de un comportement collectif plus la structure de la feuille qui fait que eh bien, ça marche remarquablement bien. Alors, cette fourmi, on l'a observée, est capable d'aller, quand par exemple le sécropia tombe, ça peut arriver, elle va s'installer sur l'arbre d'à côté. Même si c'est pas un sécropia, elle s'en fiche, elle. Elle n'est pas dépendante à 100% du sécropia. Elle peut faire son nid de façon indépendante, elle vit pas dans l'intérieur du sécropia. Puis, elle n'a pas besoin des corps nourriciers. Donc, elle peut très bien installer son nid par défaut sur un autre arbre. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas-là ? Elle va chasser de la même façon, mais elle sera beaucoup moins efficace. C'est-à-dire qu'elle est capable d'attraper des proies, mais pas des proies aussi grosses que sur le sécropia. Donc c'est une là vous avez une petite expérience qu'on a fait avec des pièces de 10 centimes pour montrer la capacité de résistance de ces fourmis. Donc on leur donnait des objets différents. Là on avait fait 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes pour voir quelle était la capacité de traction. Là vous voyez, il n'y a que 2-3 fourmis qui tiennent, quoi. Le ratio du poids de ces petites fourmis minuscules, elles font 2 mm et demi, 2 mm et demi, 3 mm. Donc ça pèse fraction de milligramme vis-à-vis de cette pièce. Donc ça, c'est l'effet velcro. Donc vous voyez ces interactions entre plantes et fourmis, les aspects que cela peut prendre. Or, si vous avez des questions plus tard, on pourra revenir sur cet exemple qui soulève tout un tas de questions, mais je ne veux pas me focaliser uniquement sur celui-ci. Deuxième exemple, c'est un de mes deux sujets préférés avec celui qui suit sur ce que j'ai pu faire avec mes collègues en Guyane. À nouveau une plante, à nouveau un myrmécophyte, une plante à fourmis, à savoir, je vous le rappelle, une plante qui héberge des fourmis dans des structures particulières qu'on appelle les domaties et qui par ailleurs leur fournit aussi de la nourriture avec notamment du nectar. Cette plante, cette fois-ci, elle se différencie par rapport au Cecropia d'avant. Souvenez-vous, le Cecropia d'avant, c'est un arbre pionnier de lumière qui pousse dans des zones tout à fait illuminées. Là, à contrario, on est dans des arbustes de sous-bois. Eh bien, cette plante myrmécophyte s'appelle Hirtella, Hirtella physophora exactement. C'est un petit arbuste qui peut monter jusqu'à 3 mètres de haut, qui vit en sous-bois. C'est-à-dire que lui, il ne montera jamais au niveau de la canopée. Il restera toujours en sous-bois. Si vous le mettez en pleine lumière, il va mourir, il ne supporte pas la lumière. C'est-à-dire que c'est un arbre d'ombre, de sous-bois. Cet arbre, regardez comment il est fait. Là, c'est un petit exemplaire qui doit faire 40 cm, 50 cm de haut. Regardez à la base de chaque feuille, il y a deux poches renflées. On les voit mieux là sur la photo du milieu. Tout ça est bien pourvu de poils. On appelle ça des trichomes, hein, mais disons des poils pour dire simple. Et si vous ouvrez ces petites poches, qu'on appelle donc des domaties, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, à l'intérieur, il y a des fourmis. Donc, ces fourmis appartiennent à une espèce à un nom barbare, Alomerus decem articulatus, peu importe. Mais là, on a vraiment une relation étroite entre cette plante et cette fourmi. Des scénarios comme ça, là en Guyane où on l'a étudié, cette plante-là, si vous faites un rayon de, je sais pas moi, les 250 mètres autour, j'en trouve 4 espèces comme ça, 4 espèces d'arbustes de sous-bois associées à des fourmis différentes. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel hein, en forêt tropicale, enfin c'est exceptionnel par tout ce que ça génère comme comportement, mais c'est un scénario que l'on connaissait bien. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a 15 ans, c'est la structure un peu bizarre qu'il y a à la surface. Vous voyez, on ne le voit pas très bien là, on va le voir mieux sur la diapo suivante, mais commencez par là. Ces arbustes, souvent à la surface des tiges et du tronc, ont des structures étranges. Des structures étranges, en fait, imaginez, faut se mettre à la place d'une fourmi. Imaginez cette plante, une tige avec tout un tas de poils, une tige poilue. Les petites fourmis, elles se naviguent entre les poils comme ça. Et bien là, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont construit quelque chose. Elles ont construit une structure comme une espèce de toit au-dessus de cette structure poilue et elles se baladent à l'abri sous cette structure. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette structure, elles l'ont constellée de petits trous. Vous voyez en photo, en microscopie électronique, là, tous ces trous, comment c'est fait. Et là, c'est pareil. Si vous venez à n'importe quelle heure, vous verrez pas grand-chose. Mais à certaines heures du jour, et là encore, c'est plutôt à la fin de la journée, vous venez et vous voyez que cette structure, eh bien, on la voit relativement bien quand l'éclairage est particulier, parce qu'on voit les têtes des fourmis juste en dessous. Et la tête passe juste, comme si c'était été fait à l'emporte-pièce. Hein, vraiment, c'est le format d'une tête de fourmi, d'une Alomerus. Qu'est-ce que c'est que cette structure ? À quoi sert-elle ? Alors au début, la première fois, on a vu ces constructions. D'abord, on les a pas vues. Puis après, quand on les a vues, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, c'est là aussi la crise du logement. On s'est dit, ah, ces petites domaties, ces petites poches ou la feuille, c'est pas suffisant. La société de fourmis grandit. Il n'y a plus assez de place. Donc, elles construisent une espèce de manchon autour des tiges pour augmenter l'espace de leur nid. Oui, mais alors pourquoi faire tous ces trous ? En faire un ou deux pour aller sortir, d'accord, mais pourquoi tous ces trous ? Et en fait, on l'a compris. On l'a compris parce qu'on arrivait à la bonne heure quand on a observé ça. Cette structure, c'est pas une solution à la crise du logement, c'est un piège. C'est un piège redoutable, j'utilise le terme volontairement parce qu'il a été utilisé dans les médias. C'est un piège redoutable, diabolique même a été utilisé. C'est un piège diabolique donc qui est construit par les fourmis. C'est la première fois où on découvre un piège fait par des insectes sociaux. Le piège chez les animaux, vous connaissez une toile d'araignée, c'est un piège. Hein, c'est un animal qui capture une proie avec un piège. On connaît des araignées sociales. Donc on connaissait déjà des pièges collectifs fabriqués par des animaux sociaux. Il y a très peu d'araignées sociales, il y en a quelques-unes, notamment en Guyane, il y en a. Mais chez les fourmis, c'était pas connu. Les fourmis qui sont pourtant sans doute parmi les insectes sociaux les plus connus, qui ont la plus grande diversité de comportements, on connaissait leur comportement collectif de chasse, on ne connaissait pas l'existence de pièges. On a découvert ça donc il y a une quinzaine d'années sur cette Hirtella physophora, sur cette plante. Ces fourmis construisent des pièges, et des pièges redoutables là aussi, parce que regardez la taille des proies. Alors on n'arrive pas à 10 000 fois plus, mais les plus grosses proies qu'on a eues sur ces pièges, c'est à peu près 3 300 fois le poids moyen d'une ouvrière. Donc c'est quand même très efficace. Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous avez un animal, le thon là par exemple, il arrive, il l'a pas vu lui les fourmis. Un thon, ça se promène en forêt et ça se pose de temps en temps. Il se pose sur ce qu'il croit être la surface de la branche et il a six pattes. Par mégarde, il y a bien une des six pattes qui va tomber dans un trou. Vous voyez le nombre de trous, il y en a peut-être plutôt deux qui vont tomber dans le trou. Et là, immédiatement, la fourmi qui est en attente en dessous l'attrape, le pique. Ces petites fourmis à l'homérus de rien du tout, vous faites piquer, même nous on le sent, quoi. C'est pas une piqûre de guêpe, hein, mais on sent quand même ça brûle. En fait, c'est paralysant. Et immédiatement, le réflexe de ce temps, ça va être de repositionner ses pattes pour essayer de s'écarter. Et là, erreur, il va poser ses autres pattes dans d'autres trous. Là, il est fichu, c'est piqué, il est paralysé. Et après, vous attendez une heure et vous allez voir progressivement le corps du temps qui va s'écraser contre le piège. Et si on filmait ça au ralenti, on verrait progressivement le corps disparaître. C'est-à-dire qu'il va se dévorer de l'intérieur et toutes les parties vont être disséminées et emmenées, hein, toutes les parties mangeables vont être emmenées dans les domaties, là où les fourmis ont leurs larves, pour nourrir leurs larves. Donc c'est un véritable piège, c'est un cas qu'on croyait unique. Depuis, on en a trouvé un deuxième aussi en Guyane, hein, chez une autre espèce qui marche moins bien, mais voilà, donc ça a fait l'objet de publications on a même eu droit au New York Times qui nous a fait un petit dessin. Et c'est là où j'ai appris le sens du mot fiendship, diabolique, le piège diabolique. Donc voilà, on a eu droit à ça pour ce travail. Vous voyez ici à gauche, hein, une sauterelle là, qui se fait prendre, hein, comment progressivement elle se fait manger et progressivement ça va disparaître. Ce piège, on a regardé d'un peu plus près comment il était constitué. On s'est rendu compte de la chose suivante. C'est que pour le construire, les fourmis procédaient de la façon suivante. Imaginez, je vous l'ai dit, vous avez une tige de cet arbre, toute poilue. Bien, que font les fourmis? Elles vont découper certains des poils. Pas tous. Ceux qui vont rester vont servir comme un peu des piliers pour la construction. Ceux qu'elles ont coupés vont servir un peu comme des poutres de construction qu'elles vont mettre au-dessus de ces poils. Et là-dessus, elles vont utiliser d'autres matériaux de construction. Elles prennent ce qu'elles ont sous la main. C'est quoi qu'elles ont sous la main? Les proies qu'elles ont eues précédemment, c'est-à-dire que les mouches, les sauterelles qu'elles ont attrapées, elles mangent tout ce qui est mangeable et tout le reste, la cuticule, c'est fait en chitine. Les fourmis, elles peuvent pas manger ça. Elles s'en servent comme matériaux de construction. Donc elles vont fabriquer une espèce de toit qui est pas solide du tout. Là-dessus, pour solidifier le toit, elles vont commencer à aménager les trous, hein, qui vont être les futurs trous que vous avez vus là, qui sont quand même assez jolis, assez bien construits, hein. Si on pense à ceux qui sont à gauche là, ils sont quand même bien fabriqués. Ils vont commencer à faire ces trous, mais on les voit pas bien. Et ce qu'elles vont faire, elles vont aller chercher du nectar. Le nectar, elles le trouvent où? Elles le trouvent à différents endroits de la plante, et notamment à l'intérieur des domaties. Là, par exemple, dans la domatie ouverte, là, les petites taches marron, il y a une flèche d'ailleurs, ce sont des nectaires. Elles récupèrent le nectar. Ce nectar va servir pour badigeonner l'ensemble. Alors tout ça, c'est pas solide encore. C'est des mélanges de poils de la plante, des mélanges de bouts d'insectes non digérables et badigeonnés avec du nectar. Et après, on les voit faire un truc bizarre. Ce truc bizarre, c'est qu'elles badigeonnent tout ça avec leurs mandibules. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles ensemençaient l'ensemble avec les spores d'un champignon. Un champignon avec lequel elles sont associées. Et ce champignon va pousser dans toute cette structure, va envoyer des filaments partout dans la structure. Ce champignon se nourrit de la chitine des insectes que lui sait digérer, mais que les fourmis ne savent pas digérer. Il s'en nourrit. En s'en nourrissant, évidemment, il va envoyer ses filaments partout et va créer un matériau composite qui vient devenir solide. Et là, la structure est solide. Et les fourmis donc finissent d'aménager le système, se positionnent sous les trous, et quand une proie arrive, elles vont l'attraper, et la proie va être bien accrochée. S'il n'y avait pas ce champignon, la proie arriverait, elle partirait, emmènerait tout avec elle, hein, les bouts de poils, tout ça, rien ne tiendrait. Avec le champignon qu'on a identifié depuis, il n'était pas connu, hein, c'est un champignon évidemment qu'on ne connaissait pas, on connaissait l'ordre à laquelle il appartient, la grande catégorie taxonomique à laquelle il appartient, mais lui on le connaissait pas. Eh bien, donc vous voyez ici que cette association plante-fourmi, qui est une association très étroite, est aussi une association avec un champignon particulier. Là vous avez une plante, règne végétal. Vous avez un animal, règne animal. Vous avez un champignon, le règne des champignons. Les trois règnes sont représentés dans ce système et les trois y tirent de l'avantage. La fourmi, elle trouve un logement, de la nourriture. La plante, elle trouve de la protection. Le champignon, il trouve quoi? Eh bien, un lieu de vie, de dissémination, et puis de la nourriture. Et c'est les fourmis qui vont le disséminer. Donc, c'est trois partenaires. On était parti d'un partenariat à deux. Et c'est à ça que je veux vous amener maintenant, c'est que à partir du moment où on a des systèmes comme ça de partenariat et qui sont étroits, c'est souvent le lieu où vont s'accrocher d'autres partenaires. Et on va avoir des complexifications des interactions. On est allé regarder d'un peu plus près. Ce champignon qui se balade partout dans les cadavres, lorsqu'il reste des cadavres d'insectes et qui s'en nourrit, on s'est rendu compte que de temps en temps, il envoie des filaments. Alors croyez-moi sur parole, hein, ce sont des analyses qui ont été faites en microscopie, colorées, etc. Bon, quand on a l'habitude, on sait analyser ça. Eh bien, ce champignon envoie des filaments à l'intérieur de la plante. Il pénètre dans les tissus de la plante. Pour faire quoi? Eh bien, pour faire quoi? On s'est rendu compte que ce champignon redistribuait de la nourriture à la plante, et en particulier de l'azote. L'azote est souvent un facteur problématique, un facteur limitant. C'est-à-dire que les plantes ont souvent des problèmes d'azote, il n'y a pas assez d'azote. C'est pour ça qu'il y a des plantes carnivores, je vous ai dit, qui ont trouvé ce moyen de se procurer de l'azote en mangeant les protéines animales. Eh bien là, l'association est encore plus complexe qu'on le pensait. Parce qu'en plus, le champignon a ce rôle positif vis-à-vis de la plante. Vous voyez, partenariat à trois, complexification du système et de plus en plus une imbrication entre les différents partenaires. Je viens de vous dire que quand il y avait plusieurs partenaires, deux partenaires déjà, ces systèmes avaient tendance à se complexifier. Eh bien, un exemple, je pourrais continuer presque vous à faire le voyage dans toute la forêt pour montrer les liens entre tous ces animaux, mais juste en continuant sur cette plante à fourmis, ce myrmécophyte. Donc, rappelez-vous Hirtella, plante à fourmis, habitée par des fourmis, on oublie pour l'instant le champignon, même s'il est important dans le système. Cette plante à fourmis, habitée par les fourmis, là encore, on est une espèce de système autonome, c'est-à-dire que les fourmis, elles ne vont pas chercher de nourriture ailleurs. Les fourmis, elles ont toute la nourriture qui arrive par les nectaires, elles ont la nourriture via les proies qu'elles capturent sur le piège, mais elles ont aussi des proies qu'elles capturent à la surface des feuilles, qu'elles patrouillent en permanence. Donc, les fourmis, elles ont tout ce qu'il faut. Elles vivent, quand l'arbuste, il fait 1 mètre de haut, il va avoir, je sais pas moi, un arbuste d'un mètre de haut, d'Hirtella, il va faire, on va dire, éventuellement 40-50 feuilles, une centaine de petites domacies, il y a quelques centaines, peut-être milliers de fourmis là-dedans. Les fourmis ne descendent pas de l'arbre. Tout ce dont elles ont besoin, elles le trouvent sur cet arbuste. Eh bien, cet arbuste qui est occupé par ces fourmis alomérus très agressifs, ça devient une espèce de forteresse assiégée. Je m'explique. C'est-à-dire que ces fourmis très agressifs protègent bien leur arbre. Elles le protègent tellement bien que non seulement tous les insectes qui vont se poser dessus risquent de se faire capturer, mais les insectes qui viennent du sol et qui veulent monter dessus ne peuvent pas le faire. Et en forêt tropicale, il y a des insectes qui se promènent sur le sol, qui sont très dangereux pour tout ce qui vit dans les arbres. Ce sont les fameuses fourmis légionnaires. Les fourmis légionnaires, on les appelle aussi les fourmis nomades, sont des fourmis qui vivent avec des colonies qui constituées par des centaines de milliers, des millions d'individus, et qui peuvent monter sur les arbres et chasser tout ce qui s'y trouve. Eh bien, ces petites fourmis alomérus, avec leurs pièges, empêchent les fourmis légionnaires de monter. Ce qui fait que cet arbre est protégé. Il n'y a jamais de fourmis légionnaires qui montent dessus. Eh bien, qu'observe-t-on sur cet arbre? D'autres partenaires, qui ne sont pas des partenaires peut-être très importants pour le reste, mais qui vont se protéger, des guêpes. On va trouver une probabilité de rencontrer des nids de guêpes sur cet arbuste très très élevé. C'est-à-dire que vous prenez un arbuste d'Hirtella et vous prenez 100 arbustes qui lui ressemblent à côté qui ne sont pas Hirtella, vous trouverez pratiquement, allez, ça dépend des années, mais parfois une fois sur un arbuste sur 10, vous trouverez un d'Hirtella, vous trouverez un nid de guêpe, et les autres une fois sur 10 000. C'est vraiment de cette proportion-là. C'est-à-dire que les guêpes choisissent de s'installer. Alors ça veut dire que les guêpes en question sont capables de se défendre contre les petites fourmis. Mais en fait, à partir du moment où elles ont trouvé un moyen de se défendre contre les petites fourmis, elles sont sur une espèce de forteresse protégée. Et donc, énormément de guêpes, en Géopolyapalin, c'est la fourmi du sous-bois d'Amazonie, d'Amazonie la plus fréquente, eh bien on la trouve très souvent sur des arbres à fourmis, dont ici Hirtella. idem pour les autres. Voilà un autre exemple de petite guêpe hein, qui pourtant fait des petits nids, qui n'a pas beaucoup de modes de défense, mais qui a trouvé un moyen pour s'installer sur les nids d'Irtella. Les fourmis Irtella, les fourmis Alomerus la laissent complètement tranquille. Elle est installée là et elle n'est jamais agressée par les fourmis légionnaires qui pourraient monter et lui voler ses larves. Pour la petite histoire, celle-ci, par exemple, pour s'installer, ces guêpes-là, pour s'installer, elles vont choisir la feuille où les domaties ne sont pas encore occupées par les fourmis. Elles vont construire vite leur nid, sans doute le protéger avec des répulsifs, des choses comme ça. Les fourmis vont investir les domaties et puis là, eh bien, elles n'iront jamais embêter les guêpes. D'autres exemples, hein, avec cette fois-ci, une pour vous montrer la complexité de ces systèmes hein, d'interaction. Ici, c'est une guêpe non sociale. Une guêpe solitaire, elle construit un nid étrange, et ce nid, on ne l'a découvert que sur les Irtella. D'ailleurs, cette guêpe, qui s'appelle Nitella constructor, n'était pas connue, c'est moi qui l'ai découvert, on lui a donné un nom. Voilà, une nouvelle espèce pour la science. Cette guêpe, on n'en connaît qu'une dizaine d'exemplaires récoltés au monde, à chaque fois, c'était ce scénario-là. Sur un Irtella, vous voyez la domatie là-haut, tout près de la domatie, ce nid construit par cette petite guêpe solitaire, construit en quoi ? On ne savait pas. On a regardé plus près, on s'est rendu compte que ce nid est construit avec des petits filaments qui sont des ifs, des parties de champignons. Alors on s'est dit, ah bah c'est le champignon. Non seulement le champignon il sert à la construction, mais à la construction du piège, mais en plus il est utilisé par cette petite guêpe. Eh bien non, pas du tout. Ce champignon, c'est un champignon, là aussi, vous ne connaissez pas. On l'a analysé, vous ne connaissez pas. Il pousse uniquement sur les nectaires marqués par des flèches là chez Irtella. Irtella a des nectaires aussi sous les feuilles. De temps en temps, sous ces feuilles, il y a un champignon qui pousse. Eh bien, la petite guêpe va récolter les ifs du champignon et construit cette espèce d'amphore dans laquelle elle pond ses œufs. Et là, elle est là. Elle est tout proche des fourmis Alomerus. Elle est protégée. Là aussi, il n'y a aucune fourmi autre qu'Alomerus qui va venir sur cet arbre. Et elle est protégée, donc elle bénéficie ici de la protection, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Je vais sur le dernier, hein. C'est le dernier exemple. Et c'est aussi le premier sur lequel j'ai travaillé en Guyane. C'est l'exemple des jardins de fourmis. Hein, des fourmis, des plantes épiphytes et les autres, j'ai appelé ça comme ça. Donc ici, on va avoir affaire à des fourmis qui sont associées avec des plantes mais d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle un jardin de fourmis. Voilà deux exemples de jardins de fourmis. Le principe est le suivant. Des fourmis construisent, alors c'est en général des reines, des jeunes reines qui vont commencer une société, on appelle ça des fondatrices. Elles vont construire un petit nid. Ce nid n'est pas très solide. Elles le construisent sur un arbre, un jeune arbre en général. Elles le construisent avec des matériaux de construction pas très solides. Le nid ne tiendrait pas longtemps hein, s'il se met à pleuvoir et autres. Et Dieu sait s'il pleut dans ce pays. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles récupèrent, vous voyez la photo là, de la fourmi Neoponera Goldie, qui ramasse une graine. Cette graine, en général, elle la ramasse dans une crotte d'oiseau. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un oiseau qui a mangé un fruit. Le fruit est passé dans le tube digestif de l'oiseau, l'oiseau fait sa fiente et il y a les graines qui sont apparentes. La fourmi récupère cette graine et va incorporer cette graine dans son petit nid. La graine va germer, les matériaux de construction contiennent de l'humus et tout ça va pousser et ça va donner un jardin de fourmis. Ça ou ça, voilà deux exemples de jardin de fourmis. C'est-à-dire une structure dans les arbres, suspendu, une espèce de jardin suspendu, comme à Babylone, une espèce de jardin suspendu de l'Amazone, cette fois-ci. Jardin suspendu, constitué par un nid de fourmis, qui grossit au fur et à mesure que la société grandit. Et au fur et à mesure que les fourmis ramènent des matériaux de construction, le nid grandit, et le jardin qui est dessus va se mettre à pousser. C'est pas n'importe quelle plante. En Guyane, c'est à peu près 5-6 plantes qui peuvent pousser sur ces jardins de fourmis. Hein. Ici, vous en avez 1, 2, 3 exemples. Une codonante, un anthurium, une acmea. Oui, c'est ça, là, il n'y en a que 3. 3 plantes. Et parmi ces plantes, il y a une plante. Alors, ce sont des plantes qu'on dit épiphytes, hein, qui poussent sur d'autres végétaux. Et ces plantes-là ne poussent que sur les jardins de fourmis. Pratiquement, pas toutes, mais en fait celles qui sont là, oui, l'acmea notamment, celle qui est à droite là, on ne la trouvera que sur les jardins de fourmis. De même que cette acmea mertensi, à gauche et à droite, Oui, j'ai bien dit 7 parce que c'est la même, que ce soit à gauche ou à droite, c'est la même espèce de plante. Elle s'appelle Acmea mertensi. C'est une plante de la famille des Bromeliacées. Bromeliacées, c'est des plantes qui incluent l'ananas, hein, comme plante. C'est une plante d'origine américaine, les Bromeliacées. Il y a à peu près 3000 espèces de Bromeliacées. La plupart sont beaucoup d'entre elles, la moitié à peu près, sont des épiphytes, c'est-à-dire qu'elles vivent sur d'autres arbres. Eh bien, celle-ci, Acmea mertensi, on ne la trouve que sur les jardins de fourmis. Des fois, on la trouve au niveau du sol, c'est parce que l'arbre est tombé. Hein, mais en général, elle ne pousse que sur les jardins de fourmis. Eh bien, je vais expliquer le phénomène. Hein. Cette plante, elle fait des fleurs. Ces fleurs vont faire des fruits. Un oiseau va manger le fruit, disséminer la graine. Les fourmis vont récupérer la graine. Pourquoi ces graines-là ? Parce que les graines sont attractives. À la surface des graines, il y a des substances chimiques attractives pour les fourmis. En fait, à la surface des graines, on va trouver des composés chimiques qui sont les mêmes que les composés chimiques que l'on trouve à la surface des larves de fourmis. Donc elles se font leurrer en quelque sorte. Donc les fourmis prennent les graines, ramènent ça dans leur nid, les graines germent et ça donne ça. Eh bien, la même Acmea mertensi, imaginez que sa graine soit découverte par Neoponera goldi, celle-ci. Neoponera goldi est une fourmi qui construit ses nids en pleine lumière. La plante va pousser en pleine lumière. Camponotus phenoratus est une fourmi qui, elle, va faire ses nids plutôt en lisière, mais plutôt à l'ombre. Elle va donc faire son nid à l'ombre et l'acmea va pousser à l'ombre. Eh bien, cette même acmea va avoir une structure totalement différente. Là, elle a une structure de plante de lumière très resserrée, elle reçoit le moins de lumière possible parce qu'elle est pratiquement stressée par la lumière du soleil. Là, au contraire, elle essaye de récupérer le plus de lumière possible. La plante, elle est totalement ouverte et de cette façon, elle récupère aussi beaucoup de litière qui vient de la canopée qui permet de nourrir la plante. Donc, vous voyez que selon la fourmi, non seulement il y a une association étroite entre plante et fourmi, mais là, l'association étroite, elle est avec deux fourmis. Et ça a des conséquences sur la plante qui va avoir deux morphologies totalement différentes, deux physiologies totalement différentes. Ces plantes, par ailleurs, sont des plantes qui hébergent des petits réservoirs d'eau dans lesquels il y a tout un micro-monde aquatique et les micro-mondes aquatiques vont avoir des compositions différentes à gauche et à droite. Selon que le micro-monde aquatique soit en pleine lumière et reçoive peu de nutriments ou le monde aquatique est à l'ombre et reçoit beaucoup de litière parce qu'il y a des feuilles qui tombent. Et tout ça va avoir une conséquence sur cette faune aquatique, et dans cette faune aquatique, il y a des larves de moustiques. Et dans ces larves de moustiques, il y a des moustiques qui sont des transmetteurs de dengue, de chikungunya, de zika, etc., etc. Donc vous voyez, manipulez la forêt, modifiez-la, modifiez les milieux, vous favorisez une fourmi vis-à-vis de l'autre, la plante épiphyte va pas avoir la même morphologie, va pas héberger les mêmes moustiques. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir. C'est pas seulement des petites histoires amusantes et anecdotiques. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Mais avant de clore, je voudrais vous dire que si vous aimez bien ces histoires, j'aime pas faire de la publicité autour de ce que je peux faire, mais là, c'est pas à travers ce que je peux faire, c'est un peu à travers ce que je fais, mais je voudrais vous faire de la publicité pour une revue, hein, qui, peut-être certains d'entre vous la connaissent, elle s'appelle la Revue Espèce, Revue d'Histoire Naturelle, qui est publiée depuis le numéro 1, maintenant on en est au numéro 22. Qui va paraître au 1er décembre. Je dis « on » parce que je suis conseiller éditorial de cette revue. Depuis le numéro 1, j'y participe. J'écris au moins un, voire deux articles dans chaque numéro. Il y a des numéros spéciaux aussi, plutôt paléontologie. Et les histoires telles que je vous ai racontées à la fin, ou voire même au début, eh bien, si vous voulez en connaître d'autres, vous en trouverez dans cette revue qui est remarquablement bien illustrée avec un maquettiste qui fait des choses super. Donc, abonnez à la bibliothèque. Et puis voilà, petite publicité au passage. Je vous remercie de votre attention. Des questions ?
Ce genre d'association, ça existe dans d'autres lieux, dans d'autres pays, dans d'autres climats ?
Alors, ça existe partout. Ça existe partout. Dès qu'il y a des êtres vivants, il y a des associations entre êtres vivants et notamment plantes-animaux. L'herbivorie, c'est une forme d'association. Alors, cette herbivorie, elle va pouvoir, quand je vous ai dit l'exemple de la vache ou du chevreuil qui broute, c'est une association négative entre un herbivore et un... Mais évidemment, on peut aller plus loin. L'herbivorie, ça va être, même chez nous, telle espèce de papillon qui ne se développe dans la chenille, se développe que sur telle espèce de plante. Ensuite, si on continue, ça va être telle espèce de guêpe parasite qui ne parasite que telle chenille du papillon. Donc, ce type d'association, qu'elle soit lâche ou étroite, ça fait partie du vivant, hein, de la biodiversité, il y a ça partout. Sous les tropiques, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension, je vous l'ai dit, parce que la biodiversité est plus importante, il y a beaucoup plus d'espèces, donc les probabilités pour que les échanges soient plus grands et plus grandes. Ça prend une autre dimension aussi, parce que le climat... Enfin, tout ça est lié, hein, parce qu'il n'y a pas de saison froide, quoi. Les arbres, ils sont toujours là, ils sont toujours verts. Chez nous, on peut pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'association fourmi-plante chez nous? Où il y en a un tout petit peu, par exemple, vous allez, je vous l'ai dit, hein, il y a des fourmis qui vont visiter, par exemple, des plantes de chélidoine ou de violette pour récupérer les graines, pour manger les élaiosomes et qui vont disperser les graines. Il y a des fourmis qui vont aller, dans certains cas, visiter quelques nectaires. Il y a des arbres à nectaires chez nous aussi. Si vous regardez la base, d'une feuille de cerisier, il y a deux petites glandes rouges. Non, c'est des nectaires, mais voilà, c'est des petits nectaires de rien du tout. Ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on voit sous les tropiques, avec des nectaires pratiquement sur toutes les plantes, des nectaires de morphologie très différentes qui produisent des nectars très différents. Et aussi, évidemment, il n'y a pas d'association étroite. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas chez nous d'association étroite entre les fourmis et les plantes? Parce que si une fourmi doit reposer sur une plante pour survivre, quand la plante elle perd ses feuilles une grande partie de l'année, ça pose un problème. Donc sous les tropiques, il n'y a pas ce problème. L'arbre toujours des feuilles, produit toujours. Donc la fourmi peut toujours vivre. Alors vous me direz, on pourrait très bien imaginer un système dans lequel il y a eu une coévolution telle que la fourmi, eh bien, par exemple, elle habite à l'intérieur d'une plante, dans une domatie, qui rentre au repos et la fourmi rentre au repos aussi. On aurait pu imaginer ça. Ça n'est pas le cas. Il y a sans doute des raisons. Les raisons, c'est que le froid, quand même, il faut le passer, quoi. Et c'est pas si évident.
On parle beaucoup de disparition d'espèces animales végétales, mais compte tenu de la petitesse de ces insectes, est-ce que les insectes aussi peuvent être amenés à disparaître? Est-ce qu'il y a aussi des risques par rapport à la population des insectes, ou alors compte tenu du fait qu'ils sont très 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 nombreux?
Ils sont très nombreux en termes d'espèces, mais chacune de ces espèces est différente. C'est-à-dire que vous allez avoir des espèces qui ont eu des aires de répartition immenses, qu'on va trouver pratiquement partout. La mouche domestique, par exemple, vous allez la trouver partout, ou qui ont des modes de vie qui font qu'elles s'accommodent à plein d'environnements différents. Celles-ci, elles vont pas disparaître, voire même elles peuvent gagner du fait de la modification de l'environnement et des espaces naturels par l'homme. Par contre, il y a des espèces, typiquement celles qui sont sur des niches écologiques très réduites et qui sont impliquées dans des interactions très étroites, celles-là, elles vont souvent être en péril. Plus les associations sont étroites, plus c'est risqué, en fait. C'est à la fois intéressant parce que voilà, on a une association qui fait que les deux partenaires y bénéficient, mais ça peut être risqué si un des deux partenaires court des risques, l'autre va disparaître aussi. Et puis il y a aussi effectivement des espèces d'insectes, sans pour autant qu'ils rentrent dans des associations étroites comme ça, mais qui ont effectivement des niches écologiques très très réduites, quoi, qui des zones de répartition très très réduites et qui peuvent être beaucoup plus sensibles. Donc oui, les insectes disparaissent comme tous les autres êtres vivants. Le problème, c'est qu'on le voit moins. C'est plus difficile à appréhender et à voir. Il y a une telle diversité d'insectes dans la région tropicale, avec parfois des zones d'endémisme, c'est-à-dire des insectes qui sont très localisés, par exemple dans une vallée perdue aux confins des Andes, dans une île du Pacifique, etc. L'espace dans lequel vit l'insecte est tellement petit elles ont des aires de répartition tellement petites qu'il suffit qu'on détruise le milieu et elles disparaissent. Si vous détruisez la forêt en plein milieu d'Amazonie, vous allez détruire un morceau de forêt avec des êtres vivants, des arbres, avec des animaux, etc. Mais les mêmes arbres, vous les trouverez à 10 km, les mêmes plantes, etc., les mêmes épiphytes, les mêmes insectes, etc. C'est pas trop un problème. Mais si vous détruisez la même surface sur une petite vallée andine qui est un peu dans lequel il y a tout un tas d'espèces très particulières qui ont été isolées pendant dont les ancêtres ont été isolés pendant des centaines de milliers voire des millions d'années et en fait qui sont des endémiques qui ne vivent que là. Alors là, vous allez faire disparaître un grand nombre d'espèces. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir un coléoptère particulier qui disparaît? Certes, Mais tant qu'à faire se peut, on préfère éviter la disparition des espèces. Aussi pour les raisons que j'ai évoquées, qui sont des raisons utilitaristes. Moi, je suis aussi pour les... Ça me fait mal au cœur de savoir que des espèces disparaissent parce que, en tant que telles, je préférerais qu'on puisse les garder, toute cette diversité d'espèces, mais aussi pour des raisons utilitaires. Hein. Vous avez vu que les plantes sont des sources de médicaments, mais les insectes aussi sont des sources de médicaments. Et parfois, des animaux, pas forcément très fréquents, hein, on a trouvé comme ça, il y a une... des médicaments contre l'ulcère de l'estomac en étudiant des grenouilles qui avaient une incubation gastrique, qui avalaient leurs œufs et qui, dans l'incubation des œufs, étaient dans l'estomac. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des molécules qui intervenaient, qui protégeaient les têtards contre l'acide gastrique. Donc on a eu des applications autour de ça. Depuis, la grenouille en question, qui était une grenouille australienne, a disparu. Bon, vous allez me dire... Voilà, on a trouvé le médicament, maintenant on s'en fout. Non, voilà, c'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui peuvent être endémiques, qui peuvent être rares et qui peuvent, voilà, dont on ne soupçonne pas le rôle potentiel. Je donne cet argument-là, mais c'est pas pour moi l'argument suprême. Hein. Je pense aussi que tant que faire se peut, si on peut protéger les espaces naturels et les espèces qui vont avec... essayons de le faire. La grande difficulté à l'heure actuelle, c'est que, mis à part les vertébrés et les espèces emblématiques dont on connaît, on sait à peu près combien il y a d'espèces d'oiseaux sur Terre, on en trouve tous les ans 1, 2, 3 nouveaux, mais voilà, on sait, il y a 10 000 espèces d'oiseaux, grosso modo, il n'y en aura jamais 15 000, c'est-à-dire dans 10 ans, on dira pas il y a 15 000 espèces, tandis que les insectes, à l'heure actuelle, on vous l'ai dit, hein, je sais plus où on en est, mais allez, disons qu'on en a décrit 1,3, 1,4 million, les gens ne sont pas d'accord. Et à l'heure actuelle, on dit il y en a 8,5 sans doute présentes sur la Terre. Comment on a estimé ça? Je vous fais grâce des modes de calcul, mais on a ces estimations-là. Il y a 10 ans, on était plutôt sur des estimations de 30 millions. Là, on est revenu un peu à la baisse parce que on dit on a un peu exagéré. Mais ces 8,5 millions, peut-être qu'elles existent effectivement à l'heure actuelle, mais peut-être que sur ces 8,5 millions, il y en a la moitié qu'on ne découvrira jamais, parce qu'entre-temps, les milieux dans lesquels elles vivent, ces espèces, ont disparu. Hein, moi, j'ai fait partie d'expéditions scientifiques sur des milieux remarquables. J'ai souvenir d'une magnifique forêt des abeilles au Gabon, avec des arbres de 45-50 mètres d'eau. Il n'y a plus rien. Elle n'existe plus, la forêt. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça où... voilà. Sur Terre où il y a des espaces naturels qui disparaissent et les espèces qui sont dans ces espaces naturels disparaissent avec. Si dedans il y a des endémiques qu'on ne trouve que là, ben elles sont disparues à jamais. On ne saura même pas qu'elles ont existé d'ailleurs dans ce cas-là. Et il y a peut-être des espèces qu'on a découvertes, qu'on a amenées au muséum quelque part et qui n'existent plus. On les a mis au muséum, on est content, ouais, on a découvert une nouvelle espèce. Ben oui, mais le milieu a disparu, donc ton espèce c'est un subfossile, on va appeler ça. Voilà. Mais bon, ça, c'est un vrai problème, mais voilà.
Du coup, par rapport à l'histoire du piège de l'arbre du champignon, ça veut dire qu'en fait, l'arbre, il aurait calculé son coût avant même, parce que du coup, pour avoir l'apport d'azote dû au champignon...
Il n'y a rien calculé du tout. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'arbre n'a rien calculé. Tout ça, il faut imaginer que tout ça s'accumule progressivement. Alors, quel scénario est-ce que nous, chercheurs qui travaillons sur ces problématiques de myrmécophytes, est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, comment est-ce qu'on en arrive à un myrmécophyte? On reconstruit ça. C'est-à-dire que ça commence sans doute par des arbres qui attirent les fourmis un peu par hasard et qui émettent des substances sucrées. Du coup, l'arbre est favorisé parce qu'il est plus visité, donc il est plus protégé. Donc, tous les arbres qui produisent des substances sucrées avec des petites glandes vont être favorisés et au cours de l'évolution vont apparaître les nectaires. Ok? Là-dessus, en même temps, l'arbre qui crée des structures un peu bizarres, un peu creuses, permet que les fourmis s'installent dedans. Et là aussi, on imagine que celui qui construit des structures creuses de plus en plus correctes sera favorisé, hébergera les fourmis et progressivement, on en arrive au myrmécophyte. Voilà. Et là, on a un scénario incroyable parce que on a découvert, nous, en Guyane, donc cette histoire de fourmis qui construisent un piège. Alors, ça part pas de rien. C'est-à-dire que ces fourmis qui vivent, ces allomérus, sont par ailleurs des fourmis. Il y en a plein d'autres espèces qui font des constructions, mais pas des pièges. et qui font des constructions. Par exemple, elles habitent sur un myrmécophyte, mais en plus, elles font une petite construction pour se protéger, etc. Et puis, peut-être que, voilà, progressivement, on en arrivait à un scénario dans lequel, cachées derrière leur construction, elles attrapaient mieux les fourmis. Et puis ensuite, voilà. Et puis, le champignon, ce champignon, ben, c'est sans doute le dérivé d'un champignon qui existe ailleurs. Si vous prenez, vous prenez n'importe quelle construction de fourmis en forêt tropicale, en carton, ce qu'on appelle du carton, c'est pas du carton très solide, mais c'est ni en fourmis, en carton arboricole. Si vous analysez ce carton, vous allez trouver des centaines de champignons dedans, différents. Dans ces 100 champignons-là, qui poussent dans la structure, qui en a peut-être, qui solidifient la structure. Voilà, tout ça se surajoute progressivement. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas, c'est l'échelle temporelle. C'est toujours difficile, ces scénarios évolutifs, à imaginer, parce qu'on n'a pas la trace, on n'a pas de machine à remonter le temps, on n'a pas de fossiles de tout ça, on est obligé de reconstruire. On sait que les forces qui sont en jeu, ce sont des forces évolutives non dirigées. C'est pas, ça ne se dirige pas dans un sens. Il y a le hasard qui joue, il y a des scénarios qui vont dans un sens parce que les conditions écologiques sont telles, puis les conditions se modifient, le scénario va plutôt dans un autre sens. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est nous essayer de reconstituer des scénarios plausibles en fonction de ce qu'on connaît comme autre cas. Et en fait, on connaît peu de choses. Parce que, je vous dis, ce scénario-là, cette tireté-là, avec ces allomerus decem articulatus, eh bien, on a trouvé en forêt guyanaise un autre arbre, Cordia, qui est d'une autre famille végétale, sur lequel, qui est aussi un myrmécophyte, il est habité par des allomerus octo-articulatus. C'est-à-dire des fourmis qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau, et la seule façon de les différencier, c'est qu'il y en a qui ont 10 segments aux antennes et les autres 8 segments aux antennes. C'est pas que ça qui les différencie, mais nous, c'est comme ça qu'on arrive à les différencier. Eh bien, ce sont sans doute deux espèces ancestrales, qui, il y en a une qui s'est spécialisée sur Hirtella, l'autre sur Cordia. Celle qui est sur Hirtella, qu'on a découvert en premier, elle fait des nids, des pièges qui sont super efficaces. Celle qui est sur Cordia, elles font des pièges moins efficaces. Donc, vous voyez, c'est des scénarios qui se mettent en place, puis qui peuvent disparaître, hein. Et puis le champignon, ben voilà, il arrive, il se trouve qu'il y a un champignon qui durcit la structure. Du coup, ce champignon trouve un endroit où se disséminer. Du coup, les fourmis, par accident, elles le transportent d'un nid à l'autre, d'un arbre à l'autre. Ça se passe comment? Cette société, quand elle devient mature, elle produit des sexués, des mâles et des femelles. Les femelles ailées s'en vont, se font fécondées par les mâles. Les femelles, une fois fécondées, perdent leurs ailes et vont fonder toutes seules une petite société. Comment est-ce qu'elles font? Elles se promènent dans la forêt, elles cherchent un petit Hirtella tout jeune qui a des domaties non occupées. Donc un petit Hirtella qui va avoir 3-4 feuilles. Elles vont pénétrer dans la domatie, elles vont pondre leurs œufs et la société va commencer. Parfois, le petit Hirtella, il va y avoir 3-4 reines qui vont commencer et puis elles vont un petit peu, les colonies vont se réguler. Il n'y en aura plus qu'une à la fin. Bon, je m'éloigne un peu de la question que vous avez posée, mais c'est pas... L'arbre, il savait pas, quoi. L'arbre savait pas. Personne ne sait. Tout ça, ce sont des processus. Oui, ce que je voulais dire, c'est ça. Ce sont des processus temporels très, très longs. Ce qui nous manque, c'est la dimension temporelle. Ce qui nous manque, c'est... Tout ça s'est fait sur des dizaines, des millions d'années. On se rend pas compte ce que c'est que 10 millions d'années, 100 millions d'années, quoi. C'est quelque chose de colossal. Hein, combien de générations d'Hirtella et de générations de fourmis et allomerus avant d'en arriver là? Hein, une génération d'Hirtella, c'est bon, c'est en ordre d'années. Une génération d'allomerus, c'est tous les ans. Et vous imaginez ça sur des millions d'années. Donc toutes les pressions évolutives, comment est-ce que progressivement on en arrive à ces scénarios-là? C'est pour ça que j'ai présenté au début un peu la notion de coévolution, même si je l'ai fait, je ne suis pas rentré dans le détail, parce que si on rentre dans les théories évolutives et coévolutives, il faut faire un cours. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est ça notre outil à disposition. On sait que ça ne peut se passer que comme ça, mais après, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne le saura jamais. La chose est claire, c'est qu'on ne le saura jamais. Voilà. L'évolution des anatomies avec les fossiles, on peut à peu près les reconstituer quand on a affaire à des vertébrés, par exemple, encore que... il manque plein de chaînons manquants, comme on dit, même si les paléontologues n'aiment pas ce terme. Quand on travaille sur les interactions et les comportements, les fossiles, on les a pas, on n'a rien, on n'a rien. Donc on reconstruit à partir de ce que l'on observe et par comparaison. Et sans doute que dans tout l'Amazone, Des Irtella d'autres espèces, il y en a des différentes. Des Allomerus d'autres espèces, il y en a des différentes. Et des associations Irtella-Molomerus, il y en a à différents stades, mais on ne le sait pas parce que, voilà, nous on a gratté un petit morceau de la forêt guyanaise, mais il faudrait aller voir au Pérou, en Amazonie équatorienne, brésilienne, etc. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais encore plein de choses à découvrir. Et même si on aura découvert toutes les relations plantes-fourmis en Amazonie, on n'aura que la résultante actuelle de dizaines de millions d'années d'évolution du continent sud-américain en forêt, voilà, dans les relations plantes-fourmis. On n'aura que ce qui reste de toute cette évolution. Et tout le reste, on ne sait pas.
Ce qui est difficile à comprendre dans ce comportement de fourmis, c'est la transmission entre elles, cet ordre qu'il y a chez elles. Et j'avais entendu parler d'une expérience où on avait irradié la moitié d'une fourmilière et on avait vu la différence de comportement après entre les fourmis irradiées et les autres qui étaient devenues plus les combattantes. Enfin, bon.
Ça, la transmission des comportements, alors là on rentre dans... c'est pas une heure et demie qu'il faut là. C'est le déterminisme des comportements. Bon, pour dire les choses très très généralement, hein, les déterminismes des comportements, il y a deux grands types de déterminisme, et déterminisme inné, c'est-à-dire que c'est les comportements sont l'expression d'un matériel génétique avec tout que ça induit comme complexité et comme difficulté à comprendre, et puis les apprentissages. Mais les fourmis, faut pas croire que ce n'est que du génétique, il y a beaucoup d'apprentissage aussi. Donc il y a un peu les deux. Alors après, pour vos histoires de... Je connais pas ces histoires d'irradiation, mais quoi qu'on fasse à des animaux, que ce soit de l'irradiation pour des fourmis ou les soumettre à des substances, ben vous allez modifier les comportements. Mais c'est pas forcément ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi elles se comportent de cette façon. C'est-à-dire que l'impact de drogue sur le comportement des insectes, ça a été fait, hein. On s'amuse à regarder les effets de la caféine, du LSD, même sur le comportement constructeur des araignées, et elles vont construire des toiles d'araignées bizarres, quoi, qui ne sont pas comme d'habitude. Donc effectivement, vous modifiez leur comportement, mais j'ai expliqué, hein, vous avez des drogues, des substances, elles agissent sur le système nerveux et le comportement est modifié. Là, l'irradiation, ça va jouer aussi de cette façon, vous allez perturber les comportements, vous allez les changer, et elles seront différentes. Mais ce n'est pas ça qui va nous expliquer la complexité des comportements de ces fourmis. Et encore, là, je vous parle du comportement constructeur, mais ces fourmis, elles chassent, elles se reproduisent. Et voilà, il y a chaque espèce de fourmi, il faut bien dire, il y en a 15 000 à peu près, hein, d'espèces de fourmis. 11 000 décrites, 15 000 estimées, mais je pense qu'on est en dessous, il y en a beaucoup, sans doute plus. Bon, peu importe, disons 15 000 espèces de fourmis. On ne peut pas parler du comportement des fourmis. À chaque fois, on parle du comportement d'une espèce de fourmis. Voilà, cette espèce a ses comportements particuliers. Alors évidemment, il y aura des similitudes entre deux espèces qui appartiennent au même, à un même genre, de même qu'il y a des similitudes de comportement entre, je sais pas, un orang-outan et un chimpanzé, et nous-mêmes. Mais voilà, après une fourmi, quand j'ai dit fourmi, voilà, c'est une très grande variété d'individus. Les fourmis, voilà, c'est 100 millions d'années d'évolution, donc voilà, elles se sont diversifiées énormément. Quand je vous montre les deux fourmis là qui sont sur les jardins de fourmis, pour vous c'est des fourmis, mais pour moi elles sont aussi diverses qu'une musaraigne et un éléphant. Voyez, faut bien comprendre ça, quoi, par leur taille, leur comportement, leur filiation génétique, phylogénétique. Pour moi elles sont aussi, voire même plus diverses, quoi, parce que les fourmis, l'origine des fourmis est plus ancienne que celle de voilà, qui nous sépare, qui sépare la musaraigne de l'éléphant. Donc c'est aussi vaste comme monde, quoi. Bah évidemment pour nous c'est la fourmi, hein. Ces fourmis, ça a six pattes, ça rampe et puis éventuellement ça grimpe dans les arbres et puis ça vient nous embêter pendant les pique-niques. Mais voilà, il y a une diversité de comportements absolument extraordinaire, et ça on peut le dire de tous les groupes animaux, aussi modestes soient-ils. La particularité des fourmis, et qu'elles partagent avec nous, c'est que ce sont des êtres vivants sociaux. Et là, effectivement, on rentre sur des gammes de comportements assez spectaculaires. Mais c'est encore autre chose. Là, j'ai pas parlé spécifiquement de comportements sociaux. C'était ma spécialité au départ. Moi, je suis plus un spécialiste du comportement social qu'un écologue spécialiste des interactions. Mais voilà, j'ai changé de thématique, même si elles sont liées. Merci.